Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Évidemment, on va revenir sur cette annonce qui est sur le point de commencer, le point de presse tenu par Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, en compagnie du premier ministre François Legault sur la réforme des services de garde. On va analyser tout ça avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc, nos analystes, un peu plus tard, aux alentours de 14h. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Puis dans la même lignée là, par rapport aux enfants, parce qu'évidemment, qui dit enfant du service de garde dit on a hâte que nos enfants soient vaccinés, parce qu'on le sait, service de garde, école, c'est quand même un grand lieu de contagion. J'ai été assez surprise de voir les résultats d'un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec. Les parents qui ont peur que leurs enfants soient vaccinés, c'est un sondage dont les résultats ont été diffusé, rendu disponible donc le 19 octobre dernier, ça fait à peine deux jours, 27% des parents québécois qui n'ont pas l'intention de faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans. Bon, évidemment, je me raccroche à la vie en me disant il y a 63% quand même des parents qui disent vouloir le faire, mais il reste quand même ce pourcentage-là qui est élevé, 27% plus 10% qui ne sont pas certains. Bon, puis les gens qui sont pas certains, ne leur jetons pas la pierre, là, en ce sens où je comprends qu'on puisse avoir des réticences par rapport à la vaccination. Pour les enfants, on est zéro tolérant au risque. Ça nous stresse. Puis je vous ai déjà raconté à plusieurs reprises là, que moi, à une certaine époque de ma vie, j'avais peur de faire vacciner mes enfants, non pas de leur donner des vaccins, mais de suivre le fameux calendrier de vaccination. Là, je me demandais si c'était trop. Je me demandais si leur système immunitaire allait pas être submergé par tout ça. Évidemment, rien de tout ça est avéré. C'était juste des peurs qui étaient basées sur des affaires, pas de rapport, que j'avais lues sur des forums de discussion. L'infirmière du CLSC, mon médecin de famille, avait réussi à me convaincre que ça avait, mes peurs étaient infondées, puis je suis allée de l'avant avec la vaccination. Bien entendu, je suis pro-vaccin, vous le savez, mais je peux comprendre les gens qui ont des réticences, surtout qu'on a entendu beaucoup d'affaires sur l'inflammation de l'enveloppe du cœur concernant la vaccination chez les adolescents. Le risque est mince quand même, là, c'est pas arrivé souvent, mais c'est une des complications possibles. Puis comme avec un peu le vaccin AstraZeneca, quand on nous parle de complications, on dirait qu'on fait juste tiquer là-dessus, qu'on paranoïe un peu, puis qu'on se dit, ben là, tout d'un coup, que c'est mon enfant. Donc ce bout-là, je le comprends, là, mais en même temps, je pense qu'on est capable de se raisonner puis qu'on est capable de se dire que pour passer à la prochaine étape, là, ce nouveau monde, cet après-monde dont nous parlait François Legault en fin de semaine dans sa publication Facebook en anticipant son discours d'ouverture, bien, on a besoin que les enfants soient vaccinés. Par ailleurs, on lèvera les mesures d'urgence au Québec seulement quand ce sera chose faite, cette vaccination-là. Donc, on va revenir là-dessus avec Benoît Barbeau. C'est un peu de voir qu'est-ce qui est du domaine du réaliste là, au niveau des craintes, à quoi on peut s'attendre aussi au niveau de l'approbation. Et on va parler de l'inflation aujourd'hui, là, parce que 5,1% d'inflation, c'est le plus haut taux d'inflation en 30 ans. Puis, tu sais, je me semblais... Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu fais tes affaires, tu fais « Mais coudonc, c'est toujours cher, toujours plus cher. » Puis là, tu fais « Ah, je suis rendue la madame qui dit « Je t'ai écœuré de payer mes taxes, tout est cher, ma paye passe toutes mes affaires. » Bien, peut-être un peu, mais en même temps, j'ai tendance à dire que c'est pas juste une impression. Les chiffres le confirment là, quand même, mais c'est assez incroyable ce dont on va avoir faire face plutôt cet hiver, là, mais 34,9% d'augmentation pour le prix de l'essence. Puis d'ailleurs, l'augmentation du prix de l'essence, c'est en partie pour ça que l'inflation est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est comme le chien qui mange sa propre queue. Le panier d'épicerie, bien ça, vous le savez, là, notamment on parle d'une augmentation pour les produits laitiers, le fromage, le porc, les œufs. Puis je lisais un peu des commentaires là-dessus ce matin sur les médias sociaux. Là. C'est vraiment, les gens sont frappés par l'augmentation dans les fruits et les légumes. Puis pensez-y, c'est vrai, là, quand tu fais ton épicerie et tu t'en vas t'acheter, je sais pas moi, un casseau de framboise, comme rendu 5,99. C'est pas rare, là. Tu vois, un petit casseau de framboise, 5,99. Le petit casseau de mur, la demi-portion, même affaire. Donc, à un moment donné, ça commence à faire une différence dans la poche des gens. Puis, dans la poche des gens qui sont moins bien nantis, c'est encore pire. Puis, pensez aussi aux personnes âgées, ceux qui vivent avec des rentes. Bien, cette rente-là est pas adaptée selon l'inflation. Là. Donc, on reste un peu avec le même montant tout le temps. Puis après ça, bien, plus ça va, plus la pointe de tarte se rétrécit, puis plus les inéquités continuent aussi. Donc, on essaiera de voir comment ça va avoir un impact concrètement dans notre vie quotidienne, là, que cette inflation-là, avec un invité. Puis j'ai envie aussi qu'on va se parler aujourd'hui des cours d'éducation numérique. Là, grosse discussion, débat sur l'abolition des cours de CR. Qu'est-ce qu'on devrait avoir là-dedans en remplacement? Là, Éric Kerr qui disait, bon, il faut absolument penser à de l'éducation numérique. Oui, mais encore, parce que l'éducation numérique, on en parle beaucoup à cette émission. Aussi, moi, j'ai vraiment la ferme conviction qu'on doit commencer le plus tôt possible à faire de l'éducation numérique, du civisme numérique aussi. Tu sais, ça inclut tout ça. C'est pas juste les comportements de consommation puis séparer les fausses nouvelles des bonnes nouvelles. C'est non, comment être un citoyen responsable qui se respecte sur les médias sociaux, quoi faire pour éviter les écueils. Donc, tous ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission.
Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est ça. Puis s'ils sauvent en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Nicole, salut.
Bonjour Geneviève.
Bon, on reparle du révérend Paul Mukundi. Là, hier, je disais qu'on l'avait localisé au Congo. L'ex-avocate du monsieur en question l'a dit vraiment ne pas avoir vu venir la fuite de son client. C'est assez particulier. Là, elle précise qu'elle avait le mandat, justement, là, suite à sa condamnation, d'adresser une demande d'autorisation auprès de la Cour suprême du Canada pour appeler du jugement dont on a parlé ensemble, là, 8 ans pour agression sexuelle. Donc, en appeler du jugement de la Cour d'appel. Elle a accepté d'aborder pour la première fois là, depuis la fuite de M. Mukundi la question. Hier, le fait qu'il se soit sauvé, le fait que, bon, elle dit, moi, j'avais pas de signaux qui auraient pu me faire penser ça. Je lis son témoignage à cette avocate-là, puis je doute pas là, de sa parole, là, ça m'étonnerait beaucoup. Mais c'est ça, mais j'ai envie de dire au passage, Nicole, que pour son affaire en Cour suprême, le fait qu'il se soit sauvé, il peut oublier ça. Hein? La clémence de la Cour, je pense pas qu'elle va être là.
Non, mais pas du tout. Et puis, regarde, c'est sûr que cette avocate-là, moi aussi, je donne complètement foi à ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que les avocats, de façon très générale, prennent leur serment très au sérieux. Et je pense pas que tu mettes ta pratique en jeu, ta crédibilité pour le restant de tes jours dans un dossier comme ça. Et la préparation des documents pour la Cour suprême, la préparation de demande de remise en liberté, c'est pas rien, là. Alors, je suis convaincue qu'elle a travaillé dans ce sens-là, puis oui, il a le droit d'être représenté, puis oui, il a le droit de pas être content, puis oui, elle avait le droit d'aller en appel, mais de là à cautionner ses gestes par la suite, puis ses propos virulents à l'encontre de la justice canadienne, ben, c'est sûr, comme officier de justice, elle se devait prendre son temps, etc., puis faire une sortie médiatique comme elle le fait. Et c'est tout à son honneur, parce que non, on veut pas ça dans la pratique, là, puis je pense que on voit là que cet homme-là, il n'y a rien à faire. Là. Je suis certaine qu'il n'avait pas annoncé ses couleurs, là, parce que ça aurait été assez évident. Là. Donc, elle n'avait pas le choix. Elle s'est retirée. Elle l'explique pourquoi. Et non, elle ne reviendra pas. Puis elle le dit que s'il revient, il reviendra pas, là, mais s'il revient, bien évidemment, on s'attend pas du tout à ce qu'il ait une compréhension de qui que ce soit.
Dans une vidéo où il a répondu à quelques questions, M. Mukundi, il a quand même dit qu'il avait un désir de revenir au Canada, que ses avocats travaillaient là-dessus. Et il a dit qu'il expliquerait à Nicole sa stratégie de fuite du territoire canadien dans un livre.
Oui, bien, c'est, J'espère qu'il ne fera pas beaucoup, qu'on n'achètera pas en quantité industrielle ce livre-là, là, parce que c'est décourageant de voir qu'une personne se fout du système judiciaire à ce point-là.
Se joue du système.
Oui, joue le système et s'en fout également. Et qu'on continue, mais je lisais là-dessus, j'ai beaucoup lu là, sur cette église, sur ci, sur ça, puis il y a des spécialistes qui disent qu'ils ne sont pas du tout surpris. Et que cette proportion de gens qui le suivent ne changeront pas d'idée.
Mais non.
C'est clair, net et précis. Là. Il est victime d'une injustice, de racisme, de ci, de ça.
Oui, il dit qu'il est victime du fait qu'il prend position contre l'homosexualité.
Contre l'homosexualité. Alors, toutes les raisons sont bonnes. Ce que je disais souvent, c'est victime de la stachose, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de tout. Là, je le répète souvent, c'est tout le temps c'est à cause de tout sauf de soi-même. Alors, c'est bien désolant.
Oui. Puis bon, je pense pas non plus qu'on va le revoir de sitôt en sol canadien.
Non, ça me surprendrait.
Bon, pardon. Une histoire, Nicole, quand même, qui date de plus de 20 ans. C'est Gia qui a rebrassé cette histoire-là. Bon, il y a déjà quelques mois, là, un nouveau témoin important dans un meurtre qui date de 1999, le meurtre d'une mère de famille, une mère de famille sans histoire, qui a été poignardée à mort à son domicile de Saint-Fabien-de-Panay, puis c'est Castonguay, 42 ans. Et suite à la diffusion du reportage de Gia, il y a des gens qui ont appelé pour donner des nouveaux éléments, partager ce qu'ils savaient. Tu sais, des fois, des années après, il y a des choses qui refont surface, il y a des gens qui sont prêts à parler. Et là, il n'y avait personne qui avait été arrêté en lien avec cette affaire-là, mais là, jeudi matin, on a intercepté Marcel Chabot, 51 ans.
Oui, puis c'est très intéressant de remettre en question ce genre de dossier-là. Pourquoi? Parce que des équipes comme JE et des gens qui travaillent sur le terrain, qui font des enquêtes, etc., ça peut permettre de délier des langues. Puis il faut jamais se décourager, que ça soit 20 ans, 18, 30 ans. Il y a des dossiers de meurtre qui se sont soldés après X nombre d'années, puis on est souvent surpris, mais il faut jamais lâcher. Puis c'est sûr que les fils là-dedans veulent avoir des réponses. C'est leur mère, elle était... Alors là, on parle peut-être plus de seulement qu'une seule personne. On est en train de regarder, est-ce qu'il y a une possibilité que ça soit peut-être un complot, quelque chose du genre, une organisation, bon, qu'on aurait... Il n'y a peut-être pas juste une seule personne là-dedans. Là. Et moi, je l'ai déjà vu dans ma carrière.
Parce qu'on s'intéressait aussi à son conjoint, qui était en fait son ex-conjoint. Là, ce que je comprends, oui, c'est qu'au moment des faits, Lucie Castonguay et cet homme-là étaient en processus de séparation ou c'était une séparation récente? Là.
Oui, puis il n'est pas du tout accusé. Là. Puis
non,
il
ne
fait pas face à aucun chef d'accusation. Mais c'est sûr que avec des langues qui se délient, avec certaines circonstances, on voit qu'il y a eu quelque chose qui fait en sorte que là, on s'intéresse à cette personne-là, une personne d'intérêt, et peut-être qu'on va voir s'il y a un scénario là, plus large avec d'autres personnes. Et ça va continuer, là. Ils vont continuer avec des postes de commandement, puis c'est extrêmement important et nécessaire que toute personne qui a des petits éléments, si mince qu'on pense que ça peut être là, un événement, quelque chose qu'on a vu ou entendu, qu'on le dise, parce que c'est avec ces morceaux de cancer que souvent on réussit à solder un crime, même 20 ans, 30 ans après. Alors, oui, puis le témoignage de ces gens-là, c'est fort important. Ça veut pas, c'est pas demain matin là, que peut-être qu'on va voir une accusation, et peut-être que oui, mais c'est pas parce que ça fait 20, 30 ans que c'est pas important, puis ça sera pas retenu devant un tribunal si jamais on va jusque-là.
Tu te rappelles, on a parlé ensemble de cette histoire, un chauffeur là, qui avait happé une famille à mort à Beauport dans la région de Québec. Cet homme-là n'aura pas droit à une remise en liberté en attente du procès. Puis tu sais, bon, les gens évidemment se rappellent de cette histoire-là. Ça avait vraiment semé l'émoi. Les gens étaient tristes. On avait quand même une situation d'alcool au volant. Puis on s'était dit, mais mon Dieu, parce que c'était produit quand même. À la fin de l'après-midi, on se disait, ben comment tu peux être aussi chaud à cette heure-là de l'après-midi, Nicole? On se posait la question toutes les deux. Là, on a plus de détails sur ce qui s'est passé. Là, cet homme-là qui a quitté un bar où il avait largement largement consommé, qui a eu une conduite quand même dangereuse, là, j'ai envie de dire, c'est quasiment un miracle qu'il ait tué seulement ces gens-là, entre guillemets, vraiment seulement, là, parce que c'est un drame sans nom, mais je veux dire, il a foncé dans des affaires qui s'en allaient à contresens dans des rues, puis là, ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit pas remis en liberté, ne serait-ce que pour les gens, l'image de, qu'on se fait de la justice, là.
Ah, puis oui, puis on a entendu le témoignage des deux pères là,
qui ont bien voulu
donner une entrevue à la télé, et je pense que c'était important, puis ils sont quand même satisfaits de cette décision-là. C'est pas la guerre n'est pas, c'est parce que n'est pas gagnée, là. C'est la première étape, une remise en liberté. Mais ce qui est important de discuter ici, deux choses. Ce qui est important de discuter, là, c'est que cette remise en liberté, on avait offert ce qu'on appelle des garanties. C'est ça, c'est ce qui arrive dans une demande de remise en liberté. La couronne s'objecte, c'est le fardeau. Ben ici, il y avait un renversement, mais enfin, c'est pas ça qui est l'important, là. C'est que la défense offrait des garanties. Alors, ils viennent devant la cour et ils offrent des garanties, que ce soit avec dépôt, en argent, en déposant de l'argent et en ne déposant pas de l'argent. Les deux sont possibles pour garantir qu'il va suivre toutes les conditions, ne pas conduire, ne pas si, 24 sur 24 à la maison ou de... Bon, il y a plusieurs conditions qui peuvent être données pour une remise en liberté, mais il y en a une qu'on plaide souvent en défense pour remettre ces gens-là en liberté, c'est qu'on va s'engager dans une thérapie. On va aller faire ci, on va aller faire ça, on va... Une thérapie fermée, etc. Puis c'est ce qui est arrivé ici, et le juge a dit non. Regarde, là, ça va faire, là. Je ne prends pas ça au sérieux. Je pense que là, on est rendu... Ben, c'était sa prérogative. Et aussi, dans les circonstances, le 19 chefs d'accusation dans un...
Mais je pense que c'est surtout ça, Nicole. Même si la personne se sent très, très mal, même si la personne a engrangé une démarche thérapeutique, je veux dire, n'empêche, les faits qui ont été portés à l'attention de la cour sont épouvantables. Le comportement de cet homme-là est inacceptable. Il y a une famille qui a perdu la vie. Je veux dire, tu peux pas remettre cette personne-là en liberté. Je veux dire, les gens seraient allés faire une protestation devant le palais de justice. Ouais.
C'est là la condition de miner la confiance du public envers la justice, et ça a été un des critères, puis on le comprend. Maintenant, c'est sûr que ça va suivre son cours au niveau criminel, on ne sait pas non plus, parce que, tu sais, il faut faire une parenthèse, les tenanciers de bar sont pas responsables des accidents, parce que soit il y a une...
Mais il n'y a pas une responsabilité que si tu laisses partir quelqu'un en boisson...
C'est ça, mais ils peuvent pas être tenus responsables de la mort criminelle, ben parce que puis en plus il y a la loi de sans faute là, quand il y a des accidents d'automobile. Mais au niveau de la responsabilité, oui, nettement, puis pas juste là. Il y a une loi au niveau de la régie des permis des courses alcool du Québec. Ces gens-là, les tenanciers, lorsqu'on voit des situations, oui, il y a eu des dossiers qui sont montés jusqu'à la Cour suprême pour dans ce sens-là, pas nécessairement parce que des gens avaient été tués sur la route, mais pour ne pas avoir été responsable et laisser partir des gens. Puis dans des stationnements à l'extérieur, il y avait eu des batailles, etc. Donc, oui, c'est sûr qu'en civil, c'est possible. On ne sait pas si les familles vont aller jusque-là, mais ça se peut pas là, qu'on n'ait pas...
Mais moi, ça m'est arrivé souvent.
Hein. Qu'on ait vu ce gars-là, ça se peut pas. Ben, servir le gars.
C'est parce qu'il faut que t'arrêtes, c'est ça. Il y a deux affaires. Là. Moi, j'ai été barmaid très, très longtemps, serveuse, même en restauration. Mais parlons plus précisément de mon expérience de bar. Là. Nous, c'était très, très clair. Là. C'était un message qui était régulièrement communiqué aux employés par les patrons que si un client s'en venait vraiment trop chaud, là, parce que c'était rarement des clients...
Ça.
Un, t'arrêtes de le servir, là. On avait toutes sortes de petits trucs, Nicole, là, des drinks à l'eau, des affaires, là. En tout cas, nous, on riait, on appelait ça une bière d'eau. Mais c'était clair qu'on faisait tout en notre pouvoir pour dire, ben là, tu vas prendre un taxi. Ben oui, tu sais.
Très responsable. Ici, on ne le sait pas, là, parce que c'est pas allé jusque-là, mais la question m'a été posée régulièrement, mais est encore posée dernièrement. Est-ce que les tenanciers, ben oui, la réponse est oui. Est-ce que ça va l'être dans ce cas-là? On ne le sait pas, parce qu'on ne sait même pas toutes les circonstances entourant ceci, mais c'est assez perturbant de voir la quantité d'alcool, la quantité de... Puis la façon dont il est sorti, là, en sortant, il frappait toutes sortes d'affaires là, avec son véhicule, etc. Donc, il ne peut pas avoir changé là, en passant à la porte, est devenu moins moins chaud avant, puis bien, bien chaud en sortant dehors. Hein. Enfin, alors, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ose espérer là, qu'on va avoir des réponses là-dessus.
Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler la police parce que le client voulait prendre sa voiture, voulait rien savoir. Moi, je voulais pas avoir la mort de personne innocente sur la conscience. Puis même la mort de ce client-là, mettons que tu blesses personne, là, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est évitable. Merci, Nicole. À demain.
À demain. Au revoir.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Bientôt, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans au Québec, c'est quelque chose qu'on discute depuis quand même un certain temps. On attend évidemment les approbations. Bon, là, on a une nouvelle étape qui a été franchie. Pfizer a déposé une requête d'autorisation auprès de Santé Canada. On sait qu'aux États-Unis aussi, c'est un peu le même scénario. Là, ça va se faire dans les prochains jours, mois, mais vraiment dans un très, très court délai. Chez nous, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. En tout cas, c'est ce que je comprends. Ça fait peur quand même à des parents. Là, je vous parle en début d'émission là, d'un pourcentage de 27 % de parents québécois qui n'ont pas l'intention du tout de faire vacciner leurs enfants, leurs 5-11 ans, donc 10 % encore qui ne sont pas certains. Ça m'a surprise quand même là, parce que bon, la vaccination des ados a bien fonctionné. On jase de tout ça avec Benoît Barbeau, virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
Bonjour.
Bon, surprenant là, ce chiffre-là, quand même, ce pourcentage-là, 27 % des parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans.
Oui, bien, je crois que c'est en effet, c'est un pourcentage qui est quand même assez élevé.
Ben oui.
On s'y attend peut-être pas, mais encore là, il faut se rappeler que les Québécois et les Canadiens étaient pas nécessairement. Le pourcentage n'était pas si élevé, bien, était plus élevé, là, mais était quand même pas à la même niveau qu'on le voit actuellement lorsqu'on a commencé à parler de campagne vaccinale. Alors, lorsqu'on commençait justement à avoir les vaccins disponibles, il y avait quand même un haut pourcentage de personnes, des adultes qui étaient hésitants ou ne voulaient pas trop se faire vacciner. Puis maintenant, on voit quand même que le pourcentage est très fort.
Bon, alors, vous avez espoir donc qu'on change d'idée.
Je crois que c'était une nouvelle technologie, je dois l'admettre, à l'époque, ou pas tant que ça, mais disons, l'année dernière,
ça fait mille,
les gens
hein?
étaient
oui.
moins familiers. On en connaît plus, mais n'empêche, je crois que c'est toujours là, on parle d'un nouveau groupe d'âge, des plus jeunes, évidemment, les parents sont évidemment très hésitants. Et je crois que ce qui peut arriver, c'est que vraiment, au fur et à mesure qu'on voit qu'il y a plus d'enfants qui se font vacciner, on va comprendre, on va avoir vraiment une vraie idée justement de la sécurité qui est offerte par ces vaccins-là, même pour ce groupe d'âge.
Ouais, mais là, c'est Barbeau, il y a des gens qui vous entendent en ce moment et qui se disent c'est épouvantable. Là. Il dit ben on va attendre de voir les premiers enfants vaccinés si ça va bien. Non, mais c'est pas ça qu'on est en train de dire.
Non, je comprends. Non, mais rappelez-vous quand même qu'on a eu des études de phase clinique 3 quand même de quelques milliers d'enfants qui ont participé, puis encore là, ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà pour les 12 ans et plus, les adultes, que les effets secondaires sont vraiment sont minimes généralement. Il y a quelques cas qui sont un peu plus sérieux. On parle de myocardite, de péricardite, qui, somme toute, même dans l'ensemble, sont soit mineurs ou encore facilement soignables.
Oui,
alors donc, il faut quand même revenir un peu sur ce qu'on connaît, mais aussi que ça soit sur les plus vieux, mais également que les phases cliniques 3 ont vraiment été réalisées et étaient concluantes à ce niveau.
Oui, puis on s'en était déjà parlé, vous et moi, là, notamment entourant l'espèce de psychose autour du vaccin AstraZeneca. C'était épeurant, ce qu'on entendait. Moi, je comprends les gens d'avoir des craintes. Puis vous l'avez dit, là, quand on parle des enfants, on dirait qu'on est moins tolérant au risque. Et avec raison, là, moi, il faut pas trop que j'y pense à l'inflammation de l'enveloppe du cœur. Je pense à la vaccination de mes enfants, sauf que le rationnel reprend le dessus. Puis ce qu'on avait discuté, vous et moi, c'était de se dire, à partir du moment où on connaît cet effet-là, où on connaît ce risque-là, un peu comme, l'espèce de caillot sanguin là, qu'on pouvait voir avec l'AstraZeneca, on peut être à l'affût des signes et agir en amont.
Exactement. Donc, il ne faut pas oublier quand même.
C'est rare, là, faut le dire.
Pardon?
C'est rare, ces complications-là.
Exactement. C'est des complications qui sont très rares et qui sont justement, du moins pour les myocardites, les péricardites, sont soignables. Donc, en d'autres mots, même si vous êtes votre enfant est un des rares cas qu'il développe, eh bien, il y a quand même des traitements qui sont efficaces, qui vont finir en sorte justement que l'enfant va retourner chez lui puis tout va bien aller. Mais n'empêche que, vous savez, à chaque fois qu'on parle de péricardite, de myocardite, AstraZeneca, on a parlé de caillot sanguin, mais cette information-là circule constamment, que ce soit dans les réseaux sociaux, évidemment, on couvre ça au niveau des médias, puis c'est important d'en parler.
Oui.
Mais et lorsqu'on y arrive justement avec les enfants de soit les. On parlait initialement des 12 à 16 ans, là on est aux 11 ans et moins, eh bien c'est certain qu'en tant que parent, on a une certaine inquiétude parce qu'on est continuellement exposé à ces informations-là. Mais il faut tout relativiser. Dans le sens, il faut se rappeler que même si on entend parler, ça ne veut pas dire qu'on entend parler que c'est si fréquent. Donc, on parle vraiment de situations qui sont très, très rares. Et puis, contrairement plutôt à rappelons-nous aussi que, bien que je crois que la quatrième vague est quand même bien contrôlée en ce moment, je veux dire, la tendance actuelle est bonne, eh bien, il y a des enfants qui sont infectés, puis la majorité...
Il y en a qui développent la forme grave, hein, quand même.
Exactement. Donc, la majorité n'auront pas de plus de symptômes, mais il y en a un nombre qui se retrouveront avec des symptômes graves, qui vont être hospitalisés. On parle aussi d'effets à long terme de la COVID-19, même chez les enfants, d'autres effets secondaires qui sont parfois moins vraiment fréquents. Mais tout ça mis ensemble, il faut justement comprendre que de fournir cet outil ou ce matériel-là, cette approche-là aux enfants, va certainement les protéger contre ces effets qui sont, pour dire, à un pourcentage moins que chez les adultes, mais ces effets secondaires importants, ces impacts-là sur leur santé, mais va aussi minimiser le rôle en tant que vecteur du virus. Et ça aussi, c'est important. On ne fait juste que regarder en ce moment les éclosions au Québec. Eh bien, la grande majorité, c'est dans les milieux scolaires. Alors, si vous êtes capable d'avoir un vaccin qui certainement va réduire le risque d'infection, mais de transmission aussi, eh bien, je crois qu'on est gagnant de maximiser l'utilisation de ce vaccin, puis limiter justement la propagation du virus, non seulement au niveau des enfants, mais au niveau des adultes. Et donc, ça en soi, ça a un autre avantage justement à la possibilité de fournir, d'avoir ce vaccin-là pour ce groupe d'âge.
Oui, puis pour la levée aussi de certaines mesures sanitaires qui restent encore, la levée de l'état d'urgence aussi, on sait que c'est deux choses différentes tout de même, là, mais on n'aura pas le choix à un moment donné de passer par là pour ce retour à la normale, entre guillemets. Avant de vous laisser partir, M. Barbeau, j'aurais eu envie de savoir ce que vous pensiez là, de cette décision de Justin Trudeau d'aller d'abord avec un passeport vaccinal national. Ça veut dire que nous, on va se trimballer avec deux passeports vaccinaux.
ainsi que toutes les autres provinces.
Ben oui.
Donc, je crois qu'en effet, je crois que ce passeport-là national est nécessaire par rapport à ce que les autres pays demandent. Donc là, en ce moment, ils sont en train, si je compte ma compréhension, là, disons que je suis pas un expert dans les discussions qu'ils ont, mais n'empêche qu'ils doivent arriver à un moment donné à une consensus, un accord par lequel, justement, avec un passeport d'un pays versus un autre pays, que ces passeports-là permettent justement aux gens de voyager à l'international. Alors, ça en soi, je ne crois que ça aurait été plus difficile d'y aller, d'utiliser, aller du cas par cas pour chacune province, puis utiliser ces passeports-là qui sont un peu différents de province à province, mais plutôt ont décidé d'y aller avec une plateforme commune, une seule qui vraiment est canadien, national, et qui va être utilisée pour les vols internationaux. Ceci dit, rappelez-vous que ce passeport-là va être aussi utilisé pour tout vol domestique, que ce soit même le train. Donc, ça va être un passeport qui va être aussi utilisé donc dans tous les voyages qu'on va faire en sol canadien. Donc, il y a cette utilité-là, bien sûr.
Benoît Barbeau, merci, qui est virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UQAM. Merci beaucoup.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Vincent Desroux est là. Salut, Vincent.
Salut.
Les complotistes vont peut-être penser que ce passeport-là, c'est la rampe de lancement vers le nouvel ordre mondial, le gouvernement qui nous promettent là, depuis des années où 8 personnes gouverneraient la planète au complet. Qu'en sais-je? J'ai l'impression que ça va donner lieu à toutes sortes de tergiversations d'avoir 2 milliards de passeports vaccinaux. Je vais voir si ça s'arrête à quelque chose.
C'est possible.
C'est déjà commencé les théories sur les médias sociaux. Parlant de médias sociaux, il y a Trump qui lance le sien.
Oui, ma foi, il y a beaucoup d'ironie dans tout ça. Là. L'ancien président qui lance, on sait, il est banni des autres réseaux sociaux principaux, Twitter, Facebook, entre autres. Et il lance donc Truth Social, un réseau social donc thématique vérité. On sait que c'est pas, ça dépend où on se place concernant Donald Trump. Pour certains, c'est pas Monsieur Vérité, pour d'autres, oui. Et son réseau social, pour l'instant d'ailleurs, il y a quelques personnes aux États-Unis qui ont pu le télécharger uniquement sur les plateformes plateforme aux États-Unis, mais là, c'est pas possible de le télécharger, mais vous pourrez en gros faire exactement ce que vous pouvez faire sur Twitter, mais dans un environnement différent. Mais c'est vraiment une copie de Twitter. Entre autres, au lieu d'utiliser le terme tweet, ce sera Truth. Donc vous avez...
Non, mais il va se faire poursuivre par Twitter, non? Ça se pourrait.
Bon, ça se pourrait. Écoute, il y a tellement de poursuites. Il y a de quoi s'occuper jusqu'à la fin de ses jours.
C'est drôle, c'est comme un petit garçon riche, tu sais, un enfant gâté qui se fait exclure d'un jeu puis qui fait hey, moi, je m'en fous, je suis tellement riche que je vais m'en construire un jeu puis je vais jouer tout seul.
Ouais,
ça va être
ouais,
moi qui va faire les règlements.
Tu fais sortir du bar puis tu dis parfait, ben, je vais m'en construire un juste en face.
Tu sais, quand on disait là, chez nous, c'est moi qui dessine, c'est un peu ça.
Oui, mais tu vois, là, quand tu dis là, copie, au lieu de publier un tweet, tu vas publier un truth. Oui. Au lieu de faire un retweet, tu vas faire un retruth. C'est vraiment ça, là, les termes. Et tu vas pouvoir donc publier des photos, de l'actualité, des vidéos et compagnie. Et le texte dit quand même que l'objectif étant de résister à la tyrannie des géants de la technologie. Nous vivons dans un monde, et là, là-dessus, il faut dire qu'ils ont un petit point, là, nous vivons dans un monde où les talibans ont une énorme présence sur Twitter alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable et demande-vous que je suis d'accord, c'est que les talibans sont quand même effectivement très actifs, mais c'est qu'ils s'ouvrent toujours des nouveaux comptes, là, alors c'est plus mystique. Le compte de Trump est assez évident et facile à bannir.
Oui, puis sur Twitter aussi, il y a beaucoup de porno. Hein? Il y a quand même
Oui, mais ça, c'est pas parce qu'il l'accepte. C'est pas parce qu'il n'est pas banni, c'est que c'est accepté sur Twitter. Okay. Et une des choses quand même, d'ailleurs, ça dit, ce sera une structure qui fournira des services vidéo à la demande et des podcasts non woke.
J'adore ça.
Ça le dit
quand
même. Je vais
tellement être à l'écoute.
Et Trump s'est dit enthousiaste à partager ses idées sur Truth Social. Donc, dès novembre prochain, les Américains, pour l'instant, pourront télécharger la plateforme qui a d'ailleurs, déjà ce matin, été en quelque sorte piratée. C'est que des gens ont déjà ouvert des comptes au nom de Trump, au nom de Mike Pence, avant que ce soit supprimé et bloqué. Mais une des choses très particulières, c'est que, tu sais, Trump dit c'est l'endroit, là... c'est le vrai porte-voix du peuple, là où on n'est pas contrôlé comme sur les autres réseaux sociaux. Mais quand tu vas voir dans les termes là, de service, là, les règles à respecter, ça dit, si vous écrivez de l'information qui est fausse ou incomplète, on peut vous suspendre ou supprimer votre compte.
Ah, fait qu'ils ont copié aussi les règlements Twitter, peut-être.
Ils ont copié, donc tu dis, on s'entend que c'est assez factuel que Trump a menti sur Twitter.
Ouais.
Ben, eux disent, si vous mentez sur Truth Social, on vous supprime, là. Alors, c'est exactement la même chose. Et on dit aussi, ça dépend comment tu l'interprètes, mais dans les petits caractères, ça dit que tu ne peux pas dénigrer ou ternir l'image de... Puis là, ils disent « os ». Donc, est-ce que, dans le fond, si tu attaques Trump sur Truth Social, techniquement, t'es en violation des règles, même si ça dit, si vous êtes un libéral, là, on accueille tout le monde, mais t'as pas le droit de dénigrer le réseau social en tant que tel ou ceux qui sont derrière. Donc, techniquement, tu peux pas rire de Trump sur Truth Social, l'endroit de la vérité
et de la liberté. Est-ce que ça va avoir autant de succès que le site qui s'était parti, là, son espèce de blog qui est une balloune qui est dégonflée comme 30 minutes plus tard?
C'est dur à dire. Ça peut avoir un certain succès. Quand même un gros fanbase Trump. Donc, ça va rouler là-dedans. Mais je pense que même pour eux, ça va devenir vite lassant là, de voir juste ça va être un nick à coucou. Là. On s'en temps, là, qui vont se craquer entre eux autres.
Mais ils aiment ça.
Oui, sauf que c'est pas ça qui manque. Là. Il y a déjà
sur Telegram,
Parler, Telegram, ils sont déjà là, sans faire un de plus. Mais quand même, là où il peut y avoir de quoi, c'est qu'on va avoir accès facilement à ce que Trump dit. Et là, on peut recommencer la saga. Bon, Trump a dit ça ce matin sur Truth Social.
Les médias vont capoter.
On pourrait repartir ce cycle-là qui... Ce fait qu'il soit banni partout, ça nous a sauvé de ça parce qu'il envoie des petits communiqués, ça passe souvent dans le beurre. Des fois, c'est grossier. Ben, on dirait qu'on... C'est un communiqué. On en fait moins de cas que lorsque c'est vraiment une publication sur les réseaux sociaux.
Trump, ça reste un homme d'affaires à la base. Est-ce qu'il va réussir à monétiser ça, ce réseau
ben,
social?
Il l'a déjà fait parce que là, on voit, il s'est associé avec une... C'est très technique, là, la façon dont il procède pour pouvoir aller en bourse avec cette espèce de nouvelle entité économique là, qui s'appelle Trump Media and Technology, une structure. Il a déjà ceux qui se sont alliés à lui en bourse ont monté aujourd'hui de façon assez importante. Donc, ça se peut bien qu'il fasse
un coup
d'argent avec ça. Ben, en fait, plus il peut siphonner d'argent à ses à ses fans, il va le faire. Là. Il l'a fait depuis le début, depuis toute cette histoire de « je me suis fait voler l'élection
ouais. »
Il est allé chercher des centaines de millions de dollars.
J'ai très, très hâte qu'on se penche sérieusement au niveau du journalisme d'enquête sur les gens qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos de la pandémie, puis sur répandre des faussetés, puis sur les levées de fonds, puis sur la monétisation des vidéos avant que YouTube...
Envoyez-nous de l'argent, on va vous défendre jusqu'à la Cour suprême. Ouais, finalement,
finalement et on s'achète on sait pas quoi, mais aussi avant qu'il soit banni de YouTube, c'est quand même... tu peux te faire rémunérer si tu as un certain nombre de views. Donc, je serais curieuse de savoir à quel point, justement, ces gens-là ont pour motivation, dans une certaine part, là, le profit. C'est sûr qu'il va y avoir des journalistes d'enquête qui vont... Ça va être délicieux.
Oui.
J'ai très, très hâte.
Oui, oui, oui.
Bon, tu me parles... d'une étrange pratique, Vincent, une étrange pratique mormone.
Ah oui, écoute, cette histoire-là est fascinante. Ça fait quelques semaines que sur TikTok, semble-t-il, moi je ne l'avais pas vu passer, mais il y a des vidéos d'anciens mormons qui parlent, donc religion, aux États-Unis, là, quand même des millions de personnes qui sont mormons, et les certains jeunes ex-mormons ont publié sur TikTok des histoires, des anecdotes leur sont arrivées lorsqu'ils étaient dans cette religion-là. Et une qui a collé, c'est le soaking.
OK.
OK. Le trempage.
C'est pas faire tremper son linge pour le détacher. Là.
Non, pas du tout. C'est que les mormons, et les jeunes mormons, malgré qu'ils ont des pulsions comme tous les autres jeunes, ils n'ont pas le droit d'avoir le sexe. Hein?
Sexe est mal, le sexe est sale.
Ben, c'est vraiment, ça doit être dans un contexte de mariage. Là, parce qu'on dit le pouvoir de créer la vie, c'est un pouvoir digne de Dieu. Alors il faut. En fait, la chasteté, là, c'est. Ou du moins faire l'amour en dehors du mariage, c'est la pire chose après le meurtre. Pour les mormons. C'est la pire chose après le meurtre.
C'est vraiment une meurtrière, je te le confirme.
Mais les jeunes ont le goût quand même. Là. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que t'es mormon que t'as pas des pulsions et des hormones et compagnie. De sorte qu'ils ont trouvé un loophole.
OK.
Ou une façon de tordre un peu les règles pour dire qu'ils n'ont pas fait le sexe.
OK.
Et ça s'appelle le trempage. Là, vous allez penser que c'est une joke, mais j'ai trouvé, il y a plusieurs ex-mormons qui disent, ben oui, ça a l'air d'une joke, mais ça existe, le trempage. C'est donc, admettons, l'homme, parce qu'on s'entend qu'ils ne sont pas rendus à faire des trucs homosexuels, là, les mormons, mais admettons, l'homme et sa copine. L'homme va pénétrer sa copine, mais va juste rester là.
Il va juste rentrer.
Il ne fait pas de mouvement. Parce que le mouvement, c'est le sexe.
Mais quand tu rentres, il y a un mouvement, right?
Ouais, mais là, écoute, c'est...
On dirait que je vois une faille là, dans leur voie de contournement.
C'est vite. Mettons, tu rentres juste de même, puis tu t'as touché à rien, parce que tu bouges pas.
Okay.
Alors ça, c'est le trempage, qui a aussi d'autres noms, le flottage ou la marinade. Semble-t-il, OK?
Et... La marinade, c'est mon préféré, c'est dégueulasse. Tu veux que tu marines là combien de temps, ben, là? Puis qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a de la vinaigrette au bout du corps?
Le temps qu'il faut, j'ose croire qu'un jeune mormon qui se retient depuis des mois, il n'a peut-être même pas besoin de bouger.
Même pas besoin de soquer pour que ça vinaigre.
Et il y a une deuxième, parce que je regardais certains ex-mormons qui ont publié sur TikTok pour dire oui, c'est vrai. Et entre autres, l'une d'entre elles, dont je vous ai sorti un extrait qui s'appelle Lexi George, qui est en Floride maintenant, qui était mormone à l'université Brigham Young, donc vous allez entendre, d'ailleurs BYU, l'université mormone, et elle raconte l'étape suivante, parce qu'il y a le trempage, mais ça peut aller plus loin aussi. Quand tu veux que ça bouge, il y a une façon de faire, il y a un autre loophole, Geneviève, et je vous fais entendre, c'est en anglais, je vais vous traduire tout de suite après.
And if you want to take it one step further, there's a thing called jump soaking, which is where you stick it in, and then you have a good friend who will either go underneath the bed or even on top and create movement, have outside forces move you, but if you're not doing it, then you're not having premarital sex, right? Once again, I really wish I was making this up. And it's pretty sad how common this is.
Bon, donc le trempage sauté ou le trempage sautage, c'est que tu fais ce que je vous expliquais, là, le trempage.
Une fois que tu trempes, mettons.
Une fois que
tu
es trempé,
tu
invites un de tes amis de confiance.
C'est quand même la partie importante.
Oui,
qui t'invite, Vincent?
Un bon ami.
Comment tu me présentes?
Tes bons
ça,
chums, qui a probablement fait la même chose aussi.
Okay, on peut s'échanger.
Et la personne va soit sous le lit ou sur le lit pour créer du mouvement. On va sauter sur le lit ou pousser par en dessous. De sorte que tu ne fais pas de sexe en dehors du mariage parce que tu es en quelque sorte victime de ce mouvement.
Le saut te permet de faire le va-et-vient interdit parce que c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. C'est drôle, Vincent. Je veux dire, je ris depuis tantôt, mais il y a quelque chose de profondément triste là-dedans.
Absolument. Parce que il faut dire, elle visait l'université Brigham Young. Brigham Young, qui est un des personnages importants de l'Église mormone, si on peut dire.
Il doit s'en passer des choses à l'université. Là, c'est là où tu découvres un peu l'existence, là, on s'entend.
C'est ça. Là, t'es dans les âges où ça devient dur de
d'être chaste avant le mariage.
Oui. Et d'ailleurs, certains disaient que c'est pas vu comme étant vraiment une alternative au sexe, mais un peu la situation d'urgence. Quand tu n'es plus capable de te retenir, tu es mieux de faire ça. Et que beaucoup vont aller ensuite se confesser
ils vont laver leur péché, Vincent?
Ben oui, ils vont s'excuser pour essayer de ne pas aller en enfer.
Ils vont tremper leur âme.
Donc, c'est la façon un peu d'urgence de le faire, mais ça montre quand même que, quand on voit des religions dans le monde, on est critique, il faut se rappeler que ces religions-là, c'est aux États-Unis, là, et c'est des millions de personnes, et tu te retrouves quand même à devoir faire des espèces d'entourloupes pas possible pour avoir une relation sexuelle.
Parce qu'au-delà de ça, on rit, là, puis je le disais, c'est triste, même si c'est drôle, parce que pour nous, ça nous paraît tellement surréaliste, mais si tu as du sexe avant le mariage, t'es plus bonne à marier, t'es plus un bon parti, t'es exclu de ta famille. Puis il faut quand même se dire qu'aux États-Unis, dans les communautés mormones, on pratique la polygamie. Là, donc après le mariage, il semble avoir pas mal de sexe. Tout ça pour éviter un geste banal. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est fou. Là. Puis c'est pas juste chez les mormons. Là, on a toutes sortes d'histoires là, dans les communautés juives, même chez les musulmans, des pratiques sexuelles complètement, loufoque là, pour éviter de faire la pénétration qui est, oh my god, la pire affaire sur Terre. Là. Les filles endurent des choses absolument épouvantables. Ils se font recoudre l'hymen.
C'est qu'on imagine.
Tu sais, franchement, calmez-vous, la préciosité de la virginité. Là.
C'est ça. C'est plus philosophique, mais on imagine le bon Dieu qui regarde
mais
ça
dans le stress.
Ah, t'es trempé. OK, bouge pas. T'es correct. Là, l'autre saute sur le lit. OK, il n'a pas bougé. Là, il vient. Puis là, parfait.
Là, c'est bon. T'es out parce que t'as bougé.
Ben, pour moi, si t'éternues, t'es correct. Peut-être que si tu vas quand t'as la grippe, là, t'es correct. Je ne sais pas, mais on s'entend qu'il y a...
Des élastiques qu'on étire très loin dans la tête des gens pour les faire penser qu'ils sont sur le droit chemin.
C'est ça. À la fois drôle, très drôle.
Mais tragique.
Et triste en même temps d'être poigné là-dedans. Au moins, ça permet quand même de faire connaître ces pratiques-là. Il y a certains, je voyais une animatrice de podcast aux États-Unis qui est une ancienne mormone qui disait qu'elle croyait que c'était une joke. Et finalement, après les témoignages qu'elle a eu dans les dernières semaines à la suite de la viralité de cette histoire-là, elle dit, on m'a prouvé que oui, c'est une pratique chez les jeunes mormons qui est assez régulière. Certains aussi qui passent par le sexe anal, disant, pas du sexe parce qu'on peut pas faire d'enfant.
C'est pas juste chez les mormons. Là,
c'est ça. C'est quelque chose qui se voit aussi. Mais j'ai l'impression que tu es dit dans bien des cas. Ensuite, les Mormons vivent avec beaucoup de culpabilité.
C'est ça qui est triste.
Et ils n'en ont pas profité pleinement, disons.
Le soaking.
La marinade. Je retiens aussi. À essayer, peut-être. Je sais pas combien de temps.
Lavez-vous de vous. Je sais pas qui j'appellerais pour venir sauter sous le lit. OK. Vincent, bye bye.
Salut.
Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
On se parle de l'inflation, de l'importante inflation, 5,1% quand même, qui nous attend, qui est déjà, pour ainsi dire, à nos portes. Là, comment ça va affecter notre portefeuille, l'économie de la province aussi. On sait qu'on se relève de la crise pandémique, on est encore même dedans. Puis c'est l'une des raisons, évidemment, pour lesquelles on connaît une aussi importante inflation. On est avec Bertrand Shepard, qui est chercheur à l'IRIS. Monsieur Shepard, bonjour.
Bonjour, Mme Peterson.
Bon, peut-être une question un peu simpliste, mais 5,1% d'inflation, c'est dû à quoi?
Bon, en fait, c'est dû à plusieurs choses en même temps. C'est comme si on avait un moment où une tempête parfaite. Là, d'un coup, au même moment, il y a évidemment la reprise économique suite à la pandémie. Ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, de plus en plus d'entreprises où tout le monde veut plus d'essence pour faire fonctionner leurs entreprises,
oui.
Mais on n'offre pas autant d'essence que ça. Et donc, à ce moment-là, il y a les coûts de l'essence augmentent. En même temps, la même situation se produit sur les coûts de transport. Hein. Donc, on veut faire transporter de plus en plus de marchandises. Malheureusement, il n'y a pas assez de bateaux pour être capable de transporter cette marchandise-là. En même temps de cela, il y a une demande très élevée en Asie pour certains produits alimentaires et il y a eu l'effet de la crise et donc les augmentations des salaires aussi qui ont joué là-dedans. Donc, on est à un moment très particulier et conjoncturel, c'est pas, ce sera pas toujours comme ça, où il y a une augmentation majeure de l'inflation.
OK, bon, mais c'est pas juste non plus de dire que c'est juste à cause de la PCRE ou parce que c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ce que je comprends, c'est qu'on a un mélange de plein d'affaires qui font qu'en ce moment, on est dans cette situation-là. Et là, on nous dit que ce sera pire cet hiver. Pourquoi?
En fait, ce qui arrive, c'est que présentement, on est en. Il faut dire que par les années passées, en 2019-2020, ouais, l'inflation a été plus faible qu'à l'habitude. Et donc, en quelque part, on rattrape, on fait un retour du balancier par rapport à ce qui s'est passé par les années passées. Et donc, nécessairement, ça va continuer à augmenter parce que la crise dans le transport, elle est encore présente. Les besoins en essence vont rester élevés encore au moins jusque pendant l'hiver.
Oui, puis l'hiver, est-ce que nos besoins en énergie aussi sont plus grands? Puisqu'on sait aussi qu'il va y avoir une hausse des tarifs d'Hydro-Québec qui nous attend, là.
Effectivement, surtout si on a un hiver froid, par exemple, ça pourrait augmenter parce qu'à la fois pour le gaz naturel, par exemple, les demandes, on pourrait avoir une hausse des prix. Il faut se rappeler aussi pour Hydro-Québec que le gouvernement a fait une décision. Il a décidé que les prix d'Hydro-Québec allaient se coller à l'inflation, même s'il n'y a pas de lien nécessairement entre les deux. Mm-hmm. Et donc, à ce compte-là, nécessairement, ça fait augmenter les coûts d'Hydro-Québec de manière très élevée puisqu'ils sont collés à l'inflation au Québec.
Est-ce que vous trouvez que c'est une mauvaise idée de faire augmenter ces coûts-là?
De manière évidente, cette manière de procéder-là, tous les acteurs du milieu disaient que c'était une mauvaise idée. Parce que justement, on ne contrôle pas l'inflation. La Régie de l'énergie pouvait contrôler les coûts de l'Hydro-Québec en disant à la limite, oui, c'est une augmentation, on veut qu'on augmente en partie au coût lié à l'inflation, mais on va le faire sur plusieurs années si nécessaire pour pas que les coûts soient trop élevés sur la population.
En même temps, M. Shepard, vous êtes d'accord pour dire que nos coûts d'énergie ici au Québec sont quand même dérisoires comparativement à plein d'autres marchés, là?
Sont dans les plus faibles par rapport à d'autres marchés, évidemment. Cependant, un coût, une augmentation d'électricité est plus élevée ici qu'ailleurs. Puis, c'est pas toutes les maisons qui ont, c'est pas tous les pays qui ont un hiver rigoureux comme le nôtre qui ont ces besoins-là. Et donc, c'est l'électricité est un besoin essentiel, ce qui n'est pas le cas nécessairement ailleurs. Et d'autre part, on remarque que l'élasticité prix, c'est-à-dire que les capacités qu'on a à réduire les consommations ne sont pas si élevées. Lorsqu'on augmente le prix, ça ne va pas faire que les gens vont diminuer tant leur consommation.
Non, puis ça ne veut pas faire non plus en sorte que les mauvais payeurs, ceux qui ont de la misère à régler leur facture d'Hydro-Québec, vont plus payer. De toute façon, Hydro-Québec ne peut pas couper l'hiver. Donc, il y a bien des gens qui vivent des mois de grâce à cause de ça. Donc, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, finalement.
Oui, puis en même temps, il faut aussi dire que c'est beaucoup des gens qui sont locataires qui n'ont pas les moyens ou bien de payer pour faire isoler mieux leur maison ou que leur propriétaire ne veut pas le faire. Donc, à ce compte-là, on n'améliore pas notre situation en augmentant trop rapidement l'hydroélectricité et ça a un effet sur les ménages en général aussi.
Bon, puis en ce qui a trait à l'inflation, là, ce sera pire au Québec, ce sera pire aussi dans certaines autres provinces, je pense entre autres aux provinces maritimes. Pourquoi?
Bon, en fait, c'est des questions à la fois liées au transport, puis à la fois lié à la demande. On va avoir une demande énergétique plus grande ici, par exemple, qu'ailleurs. Puis aussi parce qu'on a une difficulté à s'approvisionner pour certains produits plus difficilement que d'autres. C'est pas une difficulté. Normalement, c'est pas un enjeu, mais quand on pense, bien qu'on a beaucoup de production de porc au Québec, on en exporte beaucoup. Donc là, on est rendu à un moment où est-ce qu'il y a une demande pour le porc qui est plus élevée
en Chine?
En Chine, dans les pays asiatiques, mais un peu partout sur la planète, mais aussi chez nous, on a une demande. Et alors, la demande est plus grande que l'offre. On fait, par exemple, importer nos huiles d'olive, les huiles végétales, en grande partie, qui sont plus élevées. Et aussi, parce que, veut pas, la production d'essence au Québec, elle est inexistante, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Alberta.
Là, un des problèmes que les gens soulèvent, c'est que les salaires ne suivent pas nécessairement l'inflation. Là, il y a des patrons qui refusent de la donner, l'inflation, même si techniquement, ils seraient en droit de le faire. Tu sais. Il y a le fait aussi que le panier d'épicerie coûte vraiment plus cher. Puis on le voit, là, je veux dire, M. Shepard, on va faire l'épicerie, puis il me semble que de mois en mois, c'est toujours plus cher. Il y a des produits qui sont rendus, moi j'appelle ça la limite mentale, là, c'est-à-dire moi je suis une personne quand même qui est privilégiée dans la vie, mais c'est pas vrai que même si je peux, je vais payer un chou-fleur à 8$, un casseau de framboise à 6$. Tu sais, à un moment donné, ça a plus de sens. Il y a des gens qui arriveront plus, là, les gens qui comptent leur scène à la fin du mois, puis qui ont des familles, puis pour qui chaque 10$ compte, ils vont devoir mettre de côté certains produits?
Oui, effectivement. Puis, ça va être particulièrement vrai chez les personnes les moins nantis qui ont moins d'argent, les gens qui sont sur le salaire minimum, mais aussi chez les personnes retraitées qui souvent ont des revenus qui sont relativement stables une fois qu'on est retraité, alors que le coût de la vie augmente, ça commence à peser de plus en plus lourd le pourcentage de votre épicerie dans vos revenus. Et donc, à ce compte-là, ça a un effet clair. Et il y a moyen d'essayer d'améliorer ça à court terme. Il y a des petits, évidemment, par exemple, le plus récent prix Nobel de l'économie nous disait précisément que l'augmentation du salaire minimum avait plus d'avantages que de ne pas l'augmenter. Donc, en quelque part, on améliore la situation des gens, même si l'inflation peut monter.
Mais c'est tellement pas tous les économistes qui sont d'accord avec ça. Il y a vraiment deux écoles de pensée. Ouais. C'est un sujet vraiment controversé parce que si on hausse le salaire minimum, il y a des employeurs qui vont tout simplement arrêter d'engager puis faire autre chose. T'sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut la refiler à quelqu'un, cette facture-là là, de hausse de salaire.
Mais en même temps, les gens qui ont un meilleur salaire consomment différemment. Puis, contrairement aux plus riches de ce monde, les gens qui ont son salaire minimum dépensent leur argent dans l'économie d'ici. Ils vont pas faire l'évasion fiscale avec 18 $ de l'heure, par exemple. On n'est pas là. Donc, il y a un effet aussi. Il y a cette manière-là de faire. L'autre chose qui va arriver probablement, c'est que la semaine prochaine, la Banque du Canada va annoncer ses nouveaux taux d'intérêt. Il y a des chances que les taux d'intérêt augmentent, ce qui a tendance à faire diminuer l'inflation, en fait, d'une certaine manière. Mais par contre, pour vos auditeurs qui auraient, par exemple, une hypothèque à taux variable, ça pourrait avoir un effet sur la hausse de leur hypothèque ou sur les intérêts qu'ils vont payer du moins.
Ça, c'est fou parce que là, on est dans une espèce de folie immobilière là, en ce moment. Monsieur Shepard, il y a des gens qui achètent des propriétés en surenchère, que ce soit sur l'île de Montréal, ailleurs, les résidences secondaires. Ça va péter à un moment donné aux frais de ces gens-là là, qui n'ont même pas le moyen, par exemple, que leur hypothèque, parce que souvent, pour avoir un meilleur taux, on prend un taux variable, mais les gens sont super endettés. Si ça monte ne serait-ce que d'1%, ils ne sont plus capables de rencontrer leur paiement. On va voir ça. Là.
Oui, on risque d'y arriver. S'il y a une hausse des taux d'intérêt, et il faut dire aussi que les banques ont prêté en se basant là-dessus aussi. C'est-à-dire que les gens avaient les moyens de payer.
Ah, mais mon père disait, la banque veut ton bien et elle l'aura.
Ah oui. Ah oui. Et donc, on va arriver à une situation où est-ce que la Banque du Canada est prise, où est-ce qu'elle doit augmenter les taux d'intérêt pour être capable de lutter contre l'inflation, mais elle ne peut pas l'augmenter trop rapidement parce que là, les gens vont être mal pris. Quand les gens ont souvent la possibilité de transférer vers un taux variable, taux fixe, pardon. Mais évidemment, il faut une connaissance, il faut prendre le temps de le faire. Et ce sera pas simple pour tout le monde.
Ouais, puis il y a des gens aussi qui règlent leurs dettes avec des marges de crédit hypothécaire qui servent de leur maison pour se financer. Ces gens-là aussi, une surprise les attend vraisemblablement au cours des prochains mois. 5,1% d'inflation. Est-ce que cette hausse-là, elle est irréversible? C'est-à-dire, est-ce que ça va être ça? Parce que je lisais des experts, là, entre autres, quelqu'un de chez nous là, qui travaille à l'Université d'Alousie, qui est spécialiste des questions alimentaires, qui disait, on paye déjà pas cher pour nos affaires. Là. Honnêtement, là, ces nouveaux prix-là, ça va devenir la norme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben, ça dépend des produits, mais on peut supposer qu'effectivement, il va y avoir... L'épicerie va prendre un peu plus de place dans le panier global.
Mais ça en prend tellement déjà!
Oui, mais après ça, c'est là où est-ce que c'est pas impossible que ça reste pour les mêmes. Après ça, les gens pourront aussi peut-être changer leur manière de consommer. C'est là où est-ce qu'il va y avoir en fait.
Les mangeurs de viande, là, il va falloir qu'ils se calment un peu.
Ça va peut-être diminuer, mais il faut dire une chose, c'est que jamais non plus les gens vont pas aller se nourrir. Ils n'auront pas le choix de se nourrir. Et à chaque fois qu'on dit vous allez voir, ça va coûter très cher, ça va être un problème, ben les chaînes d'alimentation ont aussi compris qu'ils vont trouver une manière pour que peu importe qui vous êtes, soyez capable de vous nourrir minimalement. Alors, ils vont tenter de le faire. Donc, il va toujours avoir des spéciaux ou des prix d'amis, en tout cas des prix moins chers. Mais c'est sûr que si vous voulez garder le même panier aujourd'hui, il y a des fortes chances qu'il coûte plus cher l'an prochain le même panier si vous prenez un panier habituel.
Oui, c'est fou. J'entendais des gens qui me disaient, moi, ça me coûtait 150 $ par semaine pour nourrir ma famille. Maintenant, c'est 250, parfois même 300 pour le même type sensiblement d'aliments. Là, ça a vraiment augmenté. Moi, je trouve que c'est là qu'on le voit le plus. Puis, bon, le prix de l'essence, là, pendant la pandémie, on a eu une petite pause, là, mais là, ça s'est reparti en hausse aussi. Là.
Oui, parce que c'est ça. En fait, c'est ce qui frappe le plus. Hein, parce que si on prenait à peu près presque le quart de la hausse de l'inflation du monde au Canada est lié au prix de l'essence. Donc, évidemment, ce prix-là, je pense pas qu'il va augmenter éternellement, évidemment, et l'OPEP pourrait augmenter l'offre d'essence et donc, à ce moment-là, diminuer les coûts en partie. Mais c'est certain que c'est là où est-ce que tout notre système et sa dépendance au pétrole se démontre, en fait.
Ben, vous savez quoi, M. Shepard, là, puis on va conclure là-dessus, j'ai l'impression, c'est pas une bonne chose, évidemment, cette inflation-là, c'est pas plaisant de se dire qu'on va payer plus. En même temps, si ça nous pousse un peu vers moins consommer, vers cette décroissance-là, dont on n'a pas le choix de se tourner vers cette stratégie-là, parce que la planète peut plus fournir, si on consomme moins d'essence, on consomme mieux aussi notre nourriture, tu sais, qu'on jette moins, qu'on cuisine plus, tu sais, on pourrait peut-être transformer ça en quelque chose de positif, mais ce qui est dommage de penser, c'est que ça augmente encore les inégalités. Pour la classe moyenne, c'est plate, mais pour les gens qui n'ont pas d'argent, pour les gens, comme vous le dites, qui ont un revenu fixe quand ils sont à la fin, si on veut, de leur existence active, c'est clair que ça a des répercussions qui ne sont pas tellement plaisantes. Merci, M. Shepard, Bertrand Shepard, qui est chercheur à l'IRIS. On parlait de cette inflation 5,1% au Québec qui va affecter visiblement notre portefeuille.
Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève.
Salut Julie.
Je vais être honnête avec toi, j'avais très hâte de te poser la question. Vaccination des 5-11 ans, ça s'en vient très bientôt. Je sais que tu as 3 enfants, je pense qu'il y en a 2 qui sont dans cette cohorte-là. Est-ce que tu as des appréhensions, toi, des inquiétudes?
Zéro. Zéro inquiétude, zéro appréhension. Pour plein de raisons. Là, la première, mon ado s'est fait vacciner, il a eu ses 2 doses, tout a bien été. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je me suis parlé. Parce que c'est sûr que quand il est question des enfants, notre tolérance au risque, puis on en a déjà parlé, toi et moi, là, elle est assez basse. Là. Moi, si tu me dis, tu me parles des risques de complications, même pour une affaire de routine, sur le pack de Tylenol pour mon fils de 6 ans, puis me voulant me faire des scénarios dans ma tête, là, je pense que c'est un réflexe humain. Mais c'est quand même, la statistique quand même, 27% des parents qui vont refuser la vaccination disent qu'ils sont pas certains. Ça m'a surprise, Julie. Pour vrai, là, je pensais pas que ça allait être autant de personnes. Là, c'est les chiffres de l'NSPQ qu'on vient de voir à l'écran. C'est quand même beaucoup, beaucoup de gens. En même temps, tantôt, je posais la question à un expert. Je disais, ouais, mais est-ce que ça vous surprend? 27% puis 10% d'indécis. Puis il me dit une affaire encourageante. Il me dit, rappelle-toi, Geneviève, au début, quand on a eu accès à la vaccination, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas dans les pourcentages, beaucoup de gens qui étaient indécis. Et plus ça avançait dans l'opération, plus on a vu que ça allait bien, que ça se passait bien, plus ce pourcentage-là a diminué. Donc, on pourrait avoir tendance à penser que ce sera le même scénario avec la vaccination des enfants. Les gens vont...
En même temps... Bien, j'allais dire, Geneviève, on a des collègues ici, je pense notamment à un père de famille, il a 3 enfants. Il dit, moi, là, j'aurais voulu être le premier comme adulte à aller me faire vacciner. J'avais tellement hâte d'aller chercher ma première, ma deuxième dose. Il dit, ah, bien là, pour mes enfants, là, je vais attendre. Je serai peut-être pas le premier en ligne.
Hey, je le comprends tellement, là. J'en comprends la peur. Pour vrai, puis je la juge aucunement. Je pense que c'est totalement normal parce qu'on est devant l'inconnu. Puis tu regardes les essais cliniques qui ont été faits aux États-Unis sur... un peu plus de 2500 enfants. Tu dis, c'est pas tant que ça, quand même, mais il faut savoir que les compagnies pharmaceutiques, c'est très, très encadré pour les tests en ce qui concerne les gens qui sont en bas de 18 ans. Puis ce que les gens craignent, évidemment, là, c'est la myocardite, l'inflammation de l'enveloppe du cœur, un peu comme on a vu avec les adolescents. Puis encore une fois...
les effets secondaires.
Oui, puis encore une fois, je pense qu'il faut se ramener sur la voie du gros bon sens en se disant, un, c'est rare, et deux, les effets secondaires dont on est au courant, là, qui sont documentés, on peut les voir venir. Donc, c'est moins peurant. Il y a des signaux à surveiller. Il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ces effets-là. Ça, c'est la première chose. Mais il faut penser comme au reste, là. Est-ce que les bénéfices dépassent les inconvénients? Puis, tu sais, on est là à attendre que la vie revienne à la normale. On sait que les enfants, c'est un vecteur de contagion absolument incroyable. Les éclosions dans les écoles, dans les garderies sont majoritairement là. Puis, il y a des enfants aussi. Tu sais, Julie, on en a eu, là. C'est sûr que c'est pas la majorité, là, mais il y a eu des enfants qui ont eu des complications très graves de la COVID. Il y a des enfants qui ont été hospitalisés.
Exactement. Moi, je pense que tu poses une bonne question. Est-ce que les parents qui hésitent, est-ce qu'ils ont davantage peur de la COVID ou du vaccin?
Bien, je ne sais pas. Ça va être quoi la décision, leur décision? Parce que, bon, à 11 ans, tu n'as pas l'autonomie médicale qui est à compter de 14 ans au Québec. Mais c'est clair que... Tu sais, à un moment donné, il faut rester rationnel là-dedans. Puis il faut se dire aussi que je comprends là, que c'est minimalement des cas, on n'en a pas beaucoup, les enfants attrapent une COVID longue ou ont des conséquences graves de la COVID, mais il faut penser si c'est notre enfant qui a la conséquence grave. Tu sais, si c'est notre enfant qui a des symptômes de la COVID pendant super longtemps ou si notre enfant contamine une personne vulnérable. Tu sais, c'est quand même... Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête aussi, puis se dire que les risques d'attraper la COVID versus les risques du vaccin puis les risques d'avoir la COVID, bien, je pense que les risques du vaccin sont pas mal moins grands. C'est ce que tous les experts s'entendent pour dire là, en ce moment.
Et on parle vraiment d'une dose pédiatrique. C'est le tiers d'une dose qu'on administre à un adulte aussi.
Ça a bien été avec les ados. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça s'est bien passé.
Effectivement, et la levée de l'urgence sanitaire, M. Legault disait que c'était une fois que les 5-11 ans seraient vaccinés.
Oui.
Ça s'en vient, inévitablement. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
Bye-bye.
Geneviève Peterson.
Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
Gabriel Caron est avec moi. Salut, Gabriel.
Salut.
Bon, on a un vaste programme aujourd'hui. Là. Tu veux commencer par quoi? Oui. La boîte à bébé de Valérie Plante ou le gouvernement chinois qui pousse sa loque avec les parents d'enfants mauvais, de mauvais comportements?
Ben écoute, commençons avec la boîte à bébé de Valérie Plante parce qu'on en a déjà parlé, mais d'une initiative en France, mais là, ça s'en vient à Montréal.
Oui, mais là, on avait critiqué le fait, puis c'était pas nous qui le critiquions, là, c'était les internautes, les Français qui avaient de la crème pour les mamans, là, pour prendre soin de soi après la venue d'un bébé. Là, ce que je comprends, c'est que dans la boîte de Valérie Plante, c'est un peu électoraliste comme mesure, là, on veut plaire aux familles, on tape beaucoup là-dessus, là, du côté de Mme Plante, les familles, il faut pas qu'ils partent, les familles, il faut qu'elles restent à Montréal. Donc, il y aura des systèmes, bien entendu, aux couleurs de Montréal dans cette boîte-là, mais encore, qu'est-ce qu'il y aura d'autre?
Ben, écoute, pas de crème hydratante pour les mères, quoique, il est encore tôt, fait qu'on sait jamais, mais comme tu l'as mentionné, des items aux couleurs de Montréal, donc des vêtements, des couvertures, des bavettes, des tucs ou autres, je sais pas de quoi un bébé a besoin d'autre, mais on spécifie ou autre. Aussi, des incontournables, donc on parle d'un thermomètre, des livres, couches lavables. Là, je suis quand même curieuse de savoir combien de couches lavables ils vont donner.
C'est cher quand même, des couches lavables.
Mais c'est ça. Fait que j'ai trop ambitieux dans leur projet, mais regarde, pourquoi pas, s'ils les donnent, on va les prendre. On parle aussi de bons d'achat, donc des certificats cadeaux qui vont permettre aux parents de continuer de profiter de tout ce que Montréal a à offrir. Donc, billets de métro, entrée pour des musées, par exemple, comme le Biodome.
Oui, mais tu sais, Gabriel, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais au lieu de donner une boîte puis d'étiquette de métro, ils devraient justement investir pour que le métro soit accessible aux poussettes puis aux personnes à mobilité réduite. Ça serait pas mal plus proactif. Mais plus cher.
Ça, je suis d'accord. Oui, et aussi, très vraiment plus cher. Mais ça, je suis d'accord que dans une station de métro, là, quand tu es avec ta poussette puis qu'il y a juste des escaliers
qui
ne sont pas roulants et que tout le monde fait semblant de ne pas te voir, effectivement, moi, je prendrais le petit coup de main pour monter ma poussette. Mais un truc que je trouve bien, par contre, c'est qu'ils proposent aussi un guide des services offerts à Montréal et aussi une liste des organismes de soutien qui œuvrent auprès des nouveaux parents. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que des fois, on ne sait pas trop vers qui ni où se tourner quand on a un bébé. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais et puis, je ne savais pas aussi, c'est 20 000 naissances de petits Montréalais par année quand même.
Ben écoute, on a juste ça à faire. On n'a plus d'argent pour sortir parce qu'on paye nos loyers. Fait que qu'est-ce qui nous reste pour se divertir? La sexualité. OK.
Et voilà.
Le gouvernement chinois, bon, on n'est pas à ses premières frasques en termes d'ingérence citoyenne. Là, on veut punir les parents d'enfants au mauvais comportement. Je veux dire, honnêtement, regarde, je pensais que c'était une joke. J'étais persuadée que c'était pas vrai.
Mais moi, je m'imaginais juste aller à l'école de mon fils puis copier, tu sais, des règles des copies.
Tu veux dire à sa place?
Je ne parlerai pas en classe. Je ne parlerai pas en classe. Mais en fait, et là, je cite un porte-parole du Parlement chinois qui a dit le plus sérieusement du monde, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les adolescents se comportent mal et le manque d'éducation familiale, non, l'éducation familiale inappropriée en est la principale cause. Donc, il jette le blâme sur les parents.
Je suis très déçue que tu ne m'aies pas dit tout ça en mandarin. Ceci dit, là, je m'attendais à plus.
Je l'ai pratiqué, mais je n'étais pas prête. Là. Je me sentais pas assez à l'aise. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que le projet de loi va faire, bon, évidemment, la promotion de l'éducation familiale et les tuteurs légaux qui auront des enfants contrevenants devront suivre des programmes d'orientation en matière d'éducation.
Mais voyons, c'est quoi ça?
Je le sais, c'est quand même assez large. Moi, je voyais ça comme des genres de cours de dressage, mais pour les enfants, finalement.
Wow.
Donc, alors on leur souhaite que leur adolescent ne soit pas trop tannant. Et d'ailleurs, dans ce texte-là, ben, ils encouragent les parents à prévoir du temps de repos, de jeu et d'exercice pour leurs enfants.
Ben, on dirait un guide pour des animaux de compagnie. Genre, il faut qu'ils sortent 30 minutes par jour, qu'ils aient sa gamelle à des heures fixes, qu'ils dorment.
Mais je le sais, comme si, tu sais, on dirait qu'ils oublient que les enfants, et c'est des humains qui ont leur propre volonté, leur propre personnalité, leur force, leur faiblesse. Et je trouve que c'est en mettre beaucoup là, sur le dos des parents, parce qu'en tant que parents, tu le sais, là, on fait de notre mieux, mais ce que les enfants font avec ce qu'on leur donne, c'est pas tant...
Mais c'est pas toujours raccord, c'est ce que j'ai envie de
non.
dire.
Exact. Mais puis moi, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que ils en sont pas là à leur première offensive en termes d'éducation et de famille. Par exemple, ils ont fait de la lutte contre la dépendance des jeunes aux jeux vidéo en ligne une de leurs priorités. En Chine, les jeunes ont droit à 3 heures de jeux vidéo par semaine, le vendredi, samedi et dimanche.
Et moi, je me déchire la chemise de sur le dos parce que l'école envoie des courriels sur Squid Game, mais je me verrais pas habiter en Chine. Laisse-moi te dire ça.
Ben écoute, moi je vois déjà les protestations ici avec des pancartes. On veut jouer aux jeux vidéo.
Non, c'est pas juste ça, c'est que c'est pas au gouvernement à imposer des pratiques à l'intérieur des maisons. Là, c'est surréaliste. Puis qui surveille ça? Y a-t-il une police des. C'est-tu monitoré en ligne? Comment ça marche?
J'ai aucune idée, c'est ce que j'allais dire. On ne sait pas comment ils font pour respecter ça. T'sais, est-ce qu'il faut soi-même
mais les respecter? Oui, c'est ça.
Ben non. C'est ça. Et aussi, ben, il encourage les enfants à avoir plus de temps libre pour jouer et se détendre. Donc, le ministère a réduit les devoirs à la maison et interdit les cours particuliers à l'école pour les matières principales durant, par exemple, les fins de semaine ou les vacances l'été. Ça, je trouve ça quand même intéressant parce que, on le sait, il y a beaucoup de programmes que les enfants ont énormément de pression, tu sais, de bien performer. Ils ont une charge de travail qui est vraiment élevée. Diminuer les devoirs à la maison, je suis quand même d'accord.
Mais moi, je comprends pas. On n'arrête pas de nous répéter, Gabrielle, qu'il faut faire une coupure entre le travail et la maison, puis que, tu sais, on critique les gens qui travaillent le soir chez eux, on les traite de workaholic, mais on donne du travail à nos enfants chaque soir après l'école. Je veux dire, c'est pas très conséquent.
Bien, je suis à la même place que toi, et là, je devrais peut-être pas dire ça.
Moi, j'abolirais tout ça, les devoirs. Je compte ça, les devoirs. Je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve que ça cause du stress, ça fait de la chicane dans les familles, puis ça donne rien.
Ben, tiens, je l'ai dit. Place. Moi, je suis tellement pas assidue. C'est mon fils de 6 ans, des fois, qui me dit « Maman, on n'a pas fait de devoir de la semaine. » Je suis comme « Oh, mon Dieu, t'as bien
raison. » Bon, ben, t'aurais besoin d'un cadre d'éducation chinois. Tu vois, ça te ferait du bien d'aller dans l'école de dressage.
Ben, écoute, je vais aller voir si c'est bien compliqué d'obtenir un visa. Je tiendrai au courant.
Non, mais on niaise, mais c'est pas drôle, là. Tu sais, tu me dis, c'est de l'ingérence quand même poussée très, très loin, là. Il y avait aussi, je crois, des initiatives concernant la malitude des enfants, des garçons à l'école.
Hey, mais ça, là, ça m'a fait tomber en bas de ma chaise. Parce que, tu sais, bon, à la limite, gérer les jeux vidéo, gérer les temps de devoir, ça...
Personne n'est contre la vertu, là.
Non, c'est ça. Mais là, on parle de la Chine qui demande aux jeunes hommes chinois d'être moins féminins et plus manly. Donc, plus hommes. Et ça va plus loin qu'un petit communiqué, là. Ils ont déposé une proposition en décembre dernier.
C'est-tu Mathieu Bock-Côté qui l'a écrite, là, la proposition?
Malheureusement, il ne parle pas mandarin, okay. mais pour et moi, ça m'a jeté à terre parce que c'est pas une blague, là. C'est pour prévenir la féminisation des adolescents mâles. C'est ça le titre. Et pour ce faire, le ministère de l'Éducation demande et même conseille fortement aux écoles de promouvoir des sports entre guillemets hommes sur le campus, comme le football, par exemple.
Bon, ben écoute, c'est une formidable idée pour avoir des hommes, des vrais football, ailes de poulet, côte levée et un film d'action, tu sais, hein?
En même temps, boc de bière.
Un boc de bière. Exactement. Ouais. Donc, c'est une recette gagnante pour avoir des hommes, des vrais. OK, là, partager ces mots de passe sur les médias sociaux, une discussion qui dure, qui enflamme les réseaux sociaux, les lignes ouvertes de radio, Némit. Depuis une semaine, bon, parce que il y a une étude qui est parue aux États-Unis, là, selon laquelle il y a bien des gens qui font ça, qui partagent leurs mots de passe. Moi, Gabriel, ça me rentre pas dans la tête. Puis, je comprends même pas qu'on soit en train de se poser la question si c'est une bonne ou une mauvaise idée, là.
Ben, j'ai envie de dire que c'est comme propre à chacun. Ça dépend des relations, ça dépend des couples, ça dépend de tellement de choses. Il y en a pour qui c'est un oui, sans même se poser de questions. T'sais, c'est une histoire de facilité, la gestion de la vie au jour le jour, la gestion de la famille, des rendez-vous, on n'échappe rien. Il y avait dans l'article l'exemple d'une femme qui a une conjointe avec un TDAH. Donc, elle, d'avoir accès à tous ses mots de passe, ben, ça y assure de rien manquer, de rien oublier. Par contre...
Mais allô, excuse-moi, je comprends pas. Ça y assure d'oublier, de pas oublier quoi?
Ben, par exemple, les prises de rendez-vous, si c'est ta conjointe qui doit prendre le rendez-vous pour le pédiatre, là, oui, elle l'a fait, mais elle a oublié de te communiquer la date. Ben là, oups, tu peux aller voir dans son calendrier. Ah oui, c'est beau, elle a pris la date.
Ah, mais ça, c'est des mots de passe d'ordi ou de calendrier, mais je veux dire, on est loin des mots de passe de médias sociaux, là, puis de téléphone, puis...
Ben, c'est ça. Puis tu sais, il y avait aussi beaucoup d'exemples, par exemple, dans le cas d'une séparation. Donc, on a un ex-conjoint qui est allé effacer, tu sais, qui a eu accès au courriel de son ex, qui est allé effacer plein de messages compromettants. Donc, quand madame est arrivée devant le juge pour déposer son dossier pour avoir la garde des enfants, ben, oups, plein de pièces à conviction qui avaient disparu dans les airs. Donc, tu sais, ça peut être bien, mais en même temps, moi, j'ai envie de dire que pourquoi?
Ben moi, je comprends pas. Je trouve que c'est du contrôle. Puis, c'est pas nécessairement parce que j'ai quelque chose à cacher. Mais ça me dérange. Tu sais, voyons, tu sais, dans quel monde tu donnes tes mots de passe, Facebook, Twitter, Instagram, même ton téléphone à une personne? Puis, dans quel monde une personne prend sur elle d'aller voir ce qui se passe là-dedans? Je veux dire, moi, ça me renvoie. Je trouve pas que c'est sain. Je trouve pas que c'est sain du tout. Puis, même si personne fait rien de répréhensible, chacun a le droit d'avoir des conversations puis un jardin secret. Là, je veux dire, non?
Ben oui, moi je suis à la même place que toi. Tu sais, hier là, on parlait du fameux, de la fameuse mode des red flags.
Oui.
Là. Moi, je trouve que c'est un red flag. Quelqu'un, tu sais, ton conjoint veut avoir accès à tous tes comptes, ton Messenger, ton Twitter, ton TikTok,
toi.
Et red flag, va-t'en de là.
Ben surtout, ben oui. Puis même chose en ce qui concerne le sexe opposé. Là, une fille qui t'arrive, pas dis-moi pour sortir avec moi. On partage tous les mots de passe, là. C'est une rampe de lancement vers le contrôle et la jalousie. Pour vrai, là, je me méfierais énormément. Gabrielle Caron, merci. Je te laisse aller évoluer dans tes mots de passe secrets tout seul. Puis je vais te laisser en te partageant ma définition de l'infidélité, parce que c'est beaucoup ça que les gens ont peur quand on partage les mots de passe. C'est pas ma définition, en fait, c'est celle de Dr. Phil, OK? Puis à chaque fois, pour vrai, non, mais elle est super bonne, OK? Parce que les gens se demandent souvent c'est quoi l'infidélité, puis surtout à l'ère numérique, là, tu sais, où il se passe plein d'affaires en ligne. Dr. Phil, il dit l'infidélité, c'est quand tu fais ou tu dis quelque chose que t'aimerais pas ça que la personne, donc ton conjoint ou ta conjointe, voit ou soit témoin de. Tu sais, si t'as des conversations que tu dis ah, j'aimerais pas ça qu'ils lisent. Ben, c'est peut-être parce que c'est problématique.
Oh.
Je dis ça
oui,
comme ça. C'est une perle de sagesse, gracieuseté de Dr. Phil. Salut, Gab. À demain.
Oui, salut.
Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Je parlais du cours de serre tantôt avec Anne-Marie Tappe, quand même un cours qui a mauvaise presse, disons-le. Les gens ont beaucoup de préjugés envers ce cours-là. Puis dans toutes les discussions là, entourant son remplacement, on a beaucoup parlé d'éducation numérique. Et Éric Kerr, ministre délégué de transformation numérique, évoquait l'importance justement de faire cette éducation-là numérique auprès des jeunes en parlant de ce qui pourrait remplacer ce fameux cours de serre. On comprend qu'il y aura plusieurs thématiques, là, mais moi, ça fait longtemps que je le dis, là, ça devrait commencer très, très tôt. On devrait parler à nos enfants de la vie numérique, du monde numérique, des impacts de ce monde-là, la vie privée. On est avec Nina Duquet, qui est spécialiste des pratiques numériques des adolescents, chargée de cours au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Madame Duquet, bonjour.
Bonjour.
Bon, très contente de vous parler à ce sujet-là parce que j'ai envie de dire enfin, pour vrai, là.
Oui, hein?
Ben, je pense qu'on est d'accord là, pour se dire, puis on est une méchante gang, que ça serait une bonne idée d'aborder la question numérique, donc de faire de l'éducation numérique à l'école.
Ah oui, tout à fait. Je pense que ça fait un bout de temps aussi qu'on en parle. Je sais que nous, on en a déjà parlé. On en parle de plus en plus, puis là, on a l'impression que, bon, finalement... Là, on nous a entendu et semblerait-il que ça devrait faire partie du curriculum. Mmh. Et c'est le temps, là. Je pense qu'on est rendu à ce point avec toutes les conversations qu'on a ces jours-ci autour des réseaux sociaux, des impacts, etc., fausses nouvelles, tout ça. On dirait, tu sais, c'est le temps-là.
Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ces cours-là? Parce que la vie numérique, c'est vaste, c'est large, ça couvre plusieurs affaires. La première affaire que vous mettriez de l'avant, vous, sur le plan de cours?
Oh boy! C'est difficile de choisir, hein, comme vous dites, hein, il y a tellement... C'est un sujet vaste, hein, mm-hmm. qui touche à tellement de choses. Je pense qu'il y a comme... Moi, je dirais qu'il y a comme trois grandes catégories de savoir qu'il faudrait démystifier. Le premier, c'est la boîte elle-même, la technologie. Il faut qu'on la comprenne. C'est pas quelque chose d'intangible. Hein. C'est des choses très concrètes qui ont des conséquences concrètes. La deuxième, c'est savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Et la dernière, c'est apprendre à bien les utiliser. C'est comment être un bon citoyen en ligne. Puis c'est peut-être celle-là, je dirais, parmi les trois. Je dirais, au moins le côté citoyen numérique, c'est vraiment parce que les usages ont des conséquences très réelles. Et puis ça, il faut absolument travailler sur ce problème-là.
J'ai l'impression qu'on leur en parle quand même déjà beaucoup aux jeunes, là, des conséquences de leurs actions en ligne. Là, on a eu toute cette conversation sur le sexting, ces affaires-là. Mais moi, ce que j'aurais envie de parler avec les jeunes, Mme Duquet, c'est la monétisation de leur présence sur les médias sociaux. Parce que un des trucs que je constate, moi, là, dans ma vie quotidienne avec les jeunes que je côtoie, c'est qu'ils n'ont aucunement conscience qu'ils sont le produit. Ils n'ont aucunement conscience de ce qu'ils voient. C'est pour vendre des trucs, c'est stagé, c'est plus ou moins vrai. Je vais donner un exemple super concret. Là. En ce moment, sur TikTok, c'est la mode des cristaux. OK, parce qu'il y a un anesthésique witch qui est bien populaire. Là, tout le monde a des cristaux. Tout le monde capote là-dessus. Les magasins de cristaux se font vider puis se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'sais, puis je parlais de ça à ma fille. J'ai dit, ouais, mais t'es-tu consciente que ce trend-là, il a été créé par les médias sociaux puis que ça fait vendre plein d'affaires? Puis elle était là, ah, ben non, j'avais pas vu ça de même. C'est quand même une bonne piste de départ de discussion, je trouve.
Ben, ça, pour moi, ça tombe justement dans la première catégorie. T'sais, ouais. Les réseaux, cette boîte-là, c'est pas neutre, hein?
C'est ça.
C'est une architecture, mais c'est aussi, ça appartient à quelqu'un. Puis ça fonctionne selon des règles dont on n'est pas au courant, mais qui sont très réelles. Hein, on est des données.
La pub ciblée.
Ça appartient à des gens qui ont plus d'argent que certains pays, hein, qui ont du pouvoir. Nos gestes en ligne, tu sais, au-delà d'avoir, mettons, des conséquences sur nos amis, sur les citoyens, ça remplit les poches de personnes. Puis chaque chose, pour moi, ça, puis ça, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est des affaires que, tu sais, c'est pas naturel. Hein, ça veut pas, c'est pas, tu sais, texté. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut qu'on nous enseigne ça.
Oui, puis le fait aussi que ce qu'on texte en privé, c'est jamais totalement privé. Ça aussi, on a bien de la misère. Mais les adultes ont de la misère à le réaliser même.
Oui, ça, c'est l'autre problème. Tu sais, c'est qui va enseigner ça? Maintenant, je suis pas là du tout pour critiquer les professeurs. Je trouve qu'ils sont fantastiques. Mais pour pouvoir bien enseigner la littératie numérique, il faut soi-même posséder une littératie numérique. Fait que je trouve que c'est bien fort, là. Je me fais l'avocat des profs, mais c'est bien beau changer le curriculum, mais c'est à partir de quelles compétences qu'on va enseigner.
Ben, c'est tellement vrai ce que vous dites, Mme Duquet, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, là, qu'il y avait des profs qui étaient dépassés par la technologie, puis je veux dire, c'est bien correct, là, tout le monde n'est pas à la même place. Puis on l'a vu aussi avec les cours d'éducation à la sexualité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise là, de parler de ça. Il faut que tu aies le goût, il faut que tu aies les connaissances. T'sais, c'est la même chose pour la vie numérique. Là. Il y a des profs qui sont tout simplement pas outillés.
Ben non, tout à fait. Puis c'est un monde complexe, c'est un monde vaste avec des grandes compétences. Moi, je vois difficilement. Ah, c'est pas quelque chose que tu apprends avec un atelier ou un petit cours d'appoint. Là. Ça demande vraiment une réflexion. Fait que c'est une excellente idée, mais il va falloir réfléchir comment on va implanter ça, qui va l'enseigner, à partir de quels critères aussi, hein, à quel âge. On vous le disait, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que ça commence. Moi, selon moi, ça devrait commencer au primaire, dès le début.
Bien
je sais qu'on n'aime pas ça que les enfants, les jeunes enfants, soient sur les technologies, mais il faut qu'ils apprennent, dès qu'ils sont bébés, tu sais, comment ça fonctionne, ce monde-là.
Mais ils sont en contact avec les technologies. On n'est pas en train de dire qu'il faut donner un téléphone à des enfants de 4 ans, là. Mais quand ils vont arriver face à cette technologie-là, quand ils vont être face à tout ça, parce que ça commence quand même assez tôt, là on parle des médias sociaux parce que c'est souvent ça qu'on a en tête, mais Moi, mon fils de 6 ans, il joue à Roblox. T'sais, il joue à plein d'affaires sur sa tablette, puis c'est bien correct. Moi, j'ai pas de problème avec ce qu'il fait sur sa tablette, mais moi, il y avait des affaires dans ce jeu-là que je comprenais nullement. Les possibilités, je les saisissais nullement. Les dangers, globalement, là, je pouvais comprendre que c'était un jeu en ligne puis qu'il s'exposait à des affaires, mais c'était complexe pour moi, Mme Duguay, d'y expliquer à mon fils de 6 ans c'était quoi les dangers de Roblox. T'sais. C'est ça aussi l'affaire, là.
Tout à fait, puis je dirais aussi souvent ce que nous on va percevoir en tant qu'adulte comme danger, c'est pas forcément...
c'est pas le vrai danger.
Exactement. Oui. Fait que tu sais, ça demande quand même.
Oui. On se dit il va y avoir des pédophiles, mais ok, mais c'est pas juste ça, mettons.
Là. Alors, il n'est pas là le problème. Le problème, en fait, il est peut-être plus au niveau d'acheter de l'argent, c'est Roblox.
Ah oui. Oh, oui, les Roblox, parle-moi en pas.
Oh mon Dieu, hein, on a dépensé beaucoup d'argent sur ça. Ça fait partie justement de cette littératie numérique, justement. Et puis, c'est quelque chose, en fait, comme je dis, je salue.
Non, mais il y a une volonté, là, ça c'est bon.
Mais, c'est pas juste, hey, voici comment Internet fonctionne, puis fais attention de ne pas envoyer des photos de toi compromettantes en ligne. T'sais. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, beaucoup plus complexe. C'est pour vraiment que ça soit réfléchi.
Oui, puis fais attention de ne pas envoyer de photos compromettantes de toi en ligne. Là, pour avoir parlé à plusieurs experts là-dessus, on est plutôt rendu à, ils vont le faire de toute façon, donc essayons de leur parler de la façon sécuritaire, même si ça n'existe jamais vraiment, de le faire, puis des raisons pour lesquelles tu fais ça aussi quand tu as 13-14 ans, là, parce que tu sais, en tout cas, je poserai pas la question, là, mais je pense que tout le monde a déjà envoyé des petites photos en ligne à des personnes, même si c'est écrit partout au néon fluorescent qu'il faut pas le faire. Tu sais, c'est des ados. Imaginez, là, si on avait eu un téléphone dans notre chambre à 15 ans, puis il y avait eu quelque chose qui s'appelait une pandémie, penseriez-vous vraiment qu'on se serait pas pris en photo en brassière? Moi, je le dis, c'est sûr que oui.
Ben ça, c'est un excellent point. Hein. Ça, c'est une autre chose aussi, hein, c'est que les médias, oui, sont importants, mais beaucoup de ce qu'on fait, ça vient pas des médias. C'est des choses auxquelles il faut travailler à l'extérieur des médias. Puis ça, c'est pour ça que la littératie numérique, elle doit pas être enseignée exclusivement comme quelque chose qui se passe en ligne, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, qui s'inscrit dans nos pratiques sociales.
Puis ça fait partie de nos vies, ça s'en ira pas, là. Fait que,
non.
C'est ça. Il faut arrêter de lutter, puis il faut l'utiliser de façon intelligente et sécuritaire autant que possible et rendre ces plateformes-là, moi je le dis tout le temps, imputables des dérives quand c'est des dérives répétées. À un moment donné, il devrait avoir des comptes à rendre inaudibles. Merci, qui est spécialiste des pratiques numériques. On se parlait cette sortie d'Éric Kerr à propos du cours de CR. Là, le ministre délégué à la transformation numérique a évoqué l'importance de l'éducation numérique. Il a dit que dans ses cours qu'on allait remplacer, là, les cours d'éthique et culture religieuse, il pourrait avoir un volet éducation numérique.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346. Hello! Léa Strisky.
Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
Mathieu Cyr.
Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
La rencontre.
Il y a de l'éducation à faire.
Faut avouer que je suis pour la démarche.
La rencontre Strisky-Cyr.
Bon, ce sera la rencontre Strisky-Peterson aujourd'hui, puisque Mathieu est absent. Salut, Léa.
Salut!
On se parle de TikTok. Deux madames qui vont parler de TikTok. C'est sûr que là, on va faire tout de suite un disclaimer qu'on n'est pas des pros de TikTok. Donc, qu'on va dire des choses qui ont pas de rapport. Des influenceurs sur TikTok qui sont des créations. Ils sont créés de toutes pièces.
Oui, absolument. Alors, j'ai mes mom jeans bien en place pour vous parler de tout ça.
Oui.
Mais oui, alors, il y a une compagnie de tech aux États-Unis, en fait, qui a créé carrément des scénarios de fiction, qui ont inventé des influenceurs. Donc, ce sont des acteurs et tout ça est absolument scripté. Donc, ils créent des personnages qui vivent sur TikTok, en fait. Et donc, tout ça a commencé à être remarqué quand il y a des grands journaux dans le monde, comme le New York Post, qui a fait un article qui venait du contenu qui avait été créé par cette compagnie, mais eux ne savaient pas que ces vidéos-là, en fait, étaient des acteurs, les gens à l'intérieur, donc que c'était de la fiction, et ils ont repris le contenu, donc il s'agissait de quoi se méfier sur les applications de rencontre, OK?
Ouais.
Donc ça, c'était la fille en tant que telle, là, l'actrice, en fait, le personnage parlait de ça, parce que son personnage sait qu'elle travaillait au service à la clientèle d'une application de rencontre, et donc elle faisait un article sur voici de quoi il faut se méfier, quel genre de profil il faut se méfier. Et à partir du contenu qui avait été créé là, ben comme c'est souvent le cas dans les médias, après le contenu est repris, puis il est remâché, il y a des nouveaux articles qui s'écrivent, et on le lit dans des journaux en pensant que tout ça est vrai.
Alors donc, cette fille qui prétendait travailler dans une agence, dans des sites de rencontres, elle est fictive, elle n'existe pas.
Elle est fictive, exactement. Et c'est pas un robot, c'est une vraie actrice, là. C'est pas de l'intelligence artificielle, sauf qu'elle n'existe pas. Donc, c'est un petit peu comme si, à notre époque, on avait pris des dialogues qu'il y avait dans Friends, puis on prenait le personnage de Rachel, puis on se mettait à écrire dans les journaux des affaires comme si c'était vrai, qui étaient basées sur la vie de Rachel. Vois-tu, commence à créer une espèce de non-sens.
Oui.
Sauf que notre époque étant notre époque, ben tout ça se mélange, la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et cette compagnie qui crée ces personnages-là disent que la plupart des gens qui les suivent, puis là on parle de millions de followers dans le monde, savent que c'est du contenu qui est fictif. Sauf que c'est un peu dangereux parce que la ligne entre le réel et le virtuel et ce qui est un mensonge et ce qui est la vérité sur les médias sociaux, tout ça commencé est un gros chaudron de bouillie. Alors, si tu te demandes à quoi ça sert, ces affaires-là, ben c'est en train de devenir évidemment des panneaux publicitaires parce qu'ils créent des influenceurs, mais à la place que ça soit du vrai monde, ben ils écrivent toutes pièces, fait que c'est encore quelque part.
Hey, mais ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas besoin d'y payer justement pour représenter des marques?
Ben ils les payent autrement parce que c'est des acteurs. Donc, tu sais,
oui, mais entre un contrat d'acteur puis une grosse commandite, je sais pas, moi, avec une grande compagnie mondiale, là, Coca-Cola ou peu importe, je veux dire, il y a quand même une marge, mais en même temps, j'aurais tendance à dire, Léa, que ce que les gens achètent avec le branding des influenceurs, c'est la personne. C'est-à-dire, c'est si telle personne que j'aime me pousse tel produit, qu'elle soit payée ou pas, j'ai avoir le goût de me le procurer, tandis qu'un acteur, bof, tu sais.
Ben, en même temps, ils n'ont rien inventé pantoute. Là. Leur histoire est partie du flash. Hey, mec, ça me semble que ce serait le fun de chiller avec Harry Potter, OK? Ça,
ouais.
C'était leur première idée. Donc, un personnage de fiction, mais me semble que je prendrais une bière avec, tu sais. Et de là, ils ont commencé à imaginer cette espèce de monde qu'ils sont en train de créer. Sauf que, puis ensuite, ils se disaient, hey, mais ce serait cool de pouvoir voir en vrai les personnages. Je sais comme, ben, tu veux dire du théâtre, tu sais. Après,
oui.
ils veulent vendre des billets pour pouvoir aller s'asseoir et donc être témoin de ces affaires-là. Je suis comme, vous avez inventé le théâtre. Je veux dire, ça fait des milliers d'années que ça existe. Donc, et l'espèce de modèle aussi de vendre des patentes pendant que tu regardes une histoire fictive. C'est la télévision. Vous avez rien inventé.
Oui, puis dans les films aussi, là, il y a ça, du placement de produits.
Oui, des placements de produits. Tu sais, c'est juste que là, ils se sont servis du nouveau modèle de publicité. Les influenceurs, que j'aime appeler les nouveaux hommes sandwich, parce que c'est un peu ça que t'es un homme sandwich ou une femme sandwich, c'est correct. Tu vis pour faire de la publicité. Puis tu dis qu'on achète la vraie vie du monde, mais crime, c'est des avatars qui se créent, là. C'est pas la vraie vie du monde, là. Je veux dire, c'est Kim Kardashian, on le sait-tu vraiment? C'est qui cette madame? Je pense que même elle ne sait même pas qui elle est, tu sais. Donc, la ligne entre la fiction puis le réel, de toute façon, est déjà mélangée. Il y a quelque chose de créatif là-dedans. Puis, tu sais, ils disent qu'ils font juste des affaires positives, là. Évidemment, ils s'en vont pas. Ils n'ont pas créé un personnage de Dark Web, là. On est encore chanceux.
Mm-hmm.
Mais c'est un peu dangereux pareil. Parce que, ben, on a vu comment il y a des espèces de mondes parallèles qui se créent, là, en ce moment, là, puis avec Trump et compagnie. Donc.
Mais ça brouille encore plus la frontière entre la fiction et la réalité. Puis, on avait une discussion, là, la semaine dernière, je pense, ici, où on se questionnait sur si c'était assez clair, là, la publicité sur Instagram un peu partout, là, même si les gens mettent ad, même si les gens, tu sais, disent pub, il y a quand même du monde qui le voit pas passer, le hashtag, puis tu sais, c'est ça aussi l'affaire, là, c'est qu'on devient très mêlé.
Mais pour tes enfants, par exemple, trouves-tu que moi, je trouve qu'il y a un côté rassurant à me dire ils suivent un personnage fictif. Parce que je pourrais toujours les ramener à mon amour, c'est de la fiction, cette affaire-là, OK? Mm. C'est pas complètement la vraie vie. Alors que quand tu te perds dans Instagram puis TikTok puis tu te mets à observer et à jalouser la vie de des gens comme ils te l'exposent et que tu penses que c'est la vraie vie, je trouve que ça a encore plus un effet pervers.
Oui, je suis assez d'accord.
Tu sais, donc, quelque part, il y aurait un disclaimer qui dirait c'est de la fiction, puis on crée des personnages, puis ça a une valeur créative et presque artistique.
Mais c'est de la fiction sur les médias sociaux, là. Je veux dire, c'est juste une autre forme d'exploration d'univers de fiction qui est dans un autre médium. Tu sais, on a de la fiction quand même dans les jeux vidéo, on en a dans les films, dans les séries télé. Là, on peut l'utiliser pour ça, mais que je veux dire, comme toi, il faut que ça soit excessivement clair que ça en est de la fiction parce que il y a des enfants qui regardent ça, il y a des ados qui regardent ça, puis il y a des gens qui sont pas nécessairement faits. Celles qui ont des mom jeans, par exemple, moi, sur TikTok, je pense que tout est vrai. C'est ça que je pense.
Si ça le dit sur Internet, c'est vrai.
Ben, si ça n'existe pas sur Internet, ça n'existe pas. Moi, c'est ce que je pense. Vaccination chez les jeunes de 5 à 11 ans, j'en parlais tantôt à LCN. J'étais assez surprise, Léa, de voir les chiffres de la NSPQ. 27 % des parents qui disent « je veux pas », 10 % qui disent « je sais pas quoi faire ».
Ben, je m'y attendais un petit peu.
Ah oui?
On dirait... Ben, je sais pas. 27 % ouais. Mais tu sais, au début là, de la vaccination, on devait pas être loin de ces chiffres-là aussi. Là. Je veux dire, les gens, ils hésitent. Puis là, ils se disent, je vais attendre de voir si les autres enfants développent des tics nerveux. Puis on verra si je fais vacciner le mien. Moi, j'estime que... Je veux dire, j'ai complètement confiance en le processus. Puis même aveuglément presque confiance au fait que tu sais si ce vaccin-là finit dans le bras de mon enfant, c'est parce qu'il a été testé et retesté, puis qu'il n'y a pas une compagnie au monde qui voudrait mettre sur le marché un vaccin défectueux parce que ce serait catastrophique. Donc, est-ce que je suis étonnée? On va revivre le même cycle d'informations qu'on vit tout le temps. Là, le je suis pas sûre, je vais peut-être attendre, non, je veux pas, mais tu sais, je veux dire, vous faites pas vacciner vos enfants. En général, à un mois, ils ont une cuisse dans la, ils ont une aiguille dans la cuisse, là. Fait que, moi, ça m'inquiète pas du tout.
Mais ce qui est toujours, j'ai hâte. De dire que ça m'inquiète pas, tu sais, je te cacherai pas que parfois j'ai des petites pensées là, quand j'entends les effets secondaires possibles, mais je me dis bon, mais des effets secondaires, il y en a pour toutes sortes d'affaires. Là, tu lis la crème. Amusez-vous à lire le pamphlet dans une boîte d'analgésique au début profène,
là. Ben oui.
Les effets secondaires, c'est épeurant. Vous prendrez plus jamais de Tylenol de votre vie. Donc, c'est aussi, à un moment donné, il faut relativiser, là.
Ben oui, puis tu sais, quoi d'autre qui est épeurant, c'est de se dire que toute la société serait vaccinée, puis pas nos enfants, tu sais. Je veux dire, moi, j'en ai un qui est en isolement en ce moment à cause d'un cas dans sa classe. À un moment donné, je peux pas, là. J'ai un enfant sur trois qui est vacciné. J'ai un petit peu hâte qu'ils soient tous logés à la même enseigne, puis qu'ils reçoivent le même traitement, tu sais. Donc, j'ai vraiment hâte que ça se fasse. Puis si en plus, ça déclenche ce que M. Legault a dit, c'est-à-dire un espèce de retour à la normale, parce qu'on sait que, ben, presque toute la population est vaccinée, ben, let's go. Let's go! Où est-ce que je m'inscris, s'il vous plaît?
Je te trouve quand même courageuse de l'avoir tweeté. Est-ce que ça se passe bien?
Non, j'imagine que si j'appuie sur le bout qui me montre les commentaires de gens qui m'insultent, c'est sûr que ça doit pas bien se passer.
Mais y a-tu beaucoup de commentaires en dessous de ta publication? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que normalement, quand il y a beaucoup de commentaires, c'est de la haine.
Oui, je sais pas. Des fois, les gens se chicanent aussi. Fait que je suis pas encore allée... Je faisais plein d'autres affaires aujourd'hui, là. Fait que j'ai pas... Je sais que sûrement je suis en train de me faire insulter, mais...
Ah, pas tant que ça!
Ça, c'est Twitter tous les jours, de toute façon. Ouais.
Mais peut-être que les gens t'aiment juste plus aussi.
Les gens sont fâchés. Merci, il me reste pas mes enfants, au moins, Jen. Et toi, de temps en temps.
Si le plaît, ils vont se faire vacciner, ils vont peut-être t'aimer plus. Moi, les miens ont hâte d'y aller, même si on perd de l'aiguille. Donc, c'est juste pour te dire à quel point, à un moment donné, ils veulent voir le bout de tout ça. Léa, merci beaucoup. À demain.
Merci, à demain. Salut, bye.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Culture et société.
Salut Anaïs.
Bonjour Geneviève.
Écoute, on a des gens qui ont des demandes pour Joe Biden. Ça c'est normal. C'est le président des États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont des demandes pour lui, des gens qui sont en politique. Mais là, Paris Hilton en personne, en char et en os, une demande pour M. le Président.
Exactement. Paris Hilton, est-ce que tu as vu le documentaire, toi, This is Paris, sur la chaîne YouTube de Paris Hilton?
Oui, bien, en fait, je l'ai vu. Ça fait quand même déjà un petit bout, mais c'était le documentaire où elle expliquait que toute sa vie, elle avait joué le rôle d'une niaiseuse, mais qu'elle n'était pas tant que ça, finalement.
Exactement. Le documentaire qui a fait en sorte que je me suis dit, j'aime beaucoup Paris Hilton. Moi aussi. Et finalement, elle est ressortie sur Netflix avec une émission de cuisine.
Elle rejoue ça. Ouais. Non, mais c'est son personnage. Moi, c'est comme ça que je le prends. Je trouve ça dommage là, qu'on revienne à ça, mais en même temps, c'est tellement drôle. Tu l'écoutes-tu, son show de cuisine?
Non, c'est épouvantable.
C'est du génie. Anna, c'est tellement niaiseux, là. T'as Kim Kardashian et Paris Hilton qui cuisinent dans un lieu qui a totalement pas de bon sens, qui font des choses qui ont pas. C'est de la trash TV. c'est délicieux. Mais là, c'est une femme sérieuse dans sa vraie vie, Paris.
Ben oui, Paris Hilton. Puis, tu sais, honnêtement, pour être à la tête d'un empire comme ça, même titre que des fois, des gens disent « Ah, Anne-Marie Lozic », mais je suis désolée, mais pour être à la tête d'un empire aussi important...
Mais t'es pas une épaisse.
T'es pas une épaisse, exactement. Faut avoir une tête sur les épaules et pas à peu près. Et là, dans le documentaire des Six Paris, pour la toute première fois, elle revenait, là, Geneviève, sur un endroit qu'elle est allée, en fait, le Provo Canyon School, qui est un pensionnat de l'Utah pour les adolescents en difficulté. Puis, là-bas, elle était complètement coupée de ses parents. Puis, dans le documentaire, elle rencontre d'autres anciennes étudiantes qui ont littéralement été maltraitées. L'ont empêchée de dormir, des gifles d'en face, tu te faisais rabaisser comme jamais.
Mais
justement, tu
ne
pouvais pas appeler ta famille. Et les peu de fois qu'elle parlait à ses parents, elle avait tellement peur des représailles suite à l'école qu'elle faisait comme si de rien n'était. Donc, c'est la première fois vraiment qu'elle brisait le silence. Suite à ça, il y a plusieurs personnalités qui sont sorties, notamment la tatoueuse Kat Von D, Paris Jackson, en fait, la fille de Michael Jackson aussi, qui est sortie disant « Hey, moi aussi, ça m'est arrivé. Nous aussi, ça nous est arrivé dans des établissements où on est supposé prendre soin des enfants. » Puis finalement, ben, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est la demande de Paris Hilton à l'administration Biden, puisque présentement, il n'y a pas de loi, là. C'est pas régi au niveau des établissements pour dire on fait ça pour prendre soin des enfants. Tu comprends? Donc là, ce qu'elle demande, c'est que les établissements prouvent que les droits fondamentaux des enfants sont protégés. Ce qui, je sais pas pour toi, mais à mon sens, à moi, c'est la base. Je comprends même pas qu'encore à ce jour, on peut se faire n'importe quoi dans les établissements.
Ben, si, ouais. Puis la mentalité, par exemple, qu'il faut casser les délinquants, qu'il faut être très rigide, qu'il faut sévir, qu'il faut presque reformer leur personnalité. Ça, c'est pas seulement américain, là. Ça se passe ici aussi chez nous. Dans certaines écoles privées, notamment, qu'on va pas nommer, là, mais moi, j'en ai fréquenté quelques-unes et je peux te jurer que quand tu dépassais du lot, Anaïs, là, moi, j'ai raconté ici qu'on avait enfermé un de mes amis dans un garde-robe pendant 2 heures.
Écoute,
moi, m'affaire asseoir dans le bureau de la directrice et m'affaire dire les pires choses, crier des noms, insulter, me faire dire par un directeur d'école que je ferais jamais rien dans la vie, que j'avais aucun avenir. Tu sais, de la violence psychologique, finalement, là, puis sans compter les menaces physiques aux primaires, mais il y a ce côté-là, école de réforme, éminemment problématique. Honnêtement, ça se passe en ce moment-là.
Ça se passe en ce moment, puis c'est exactement pour ça que Paris Hilton demande à l'administration Biden vraiment de réformer ce qu'on peut appeler un peu, comme tu viens de le mentionner, l'industrie des adolescentes et des adolescents
en difficulté. C'est comme s'il faut casser
le monde. Non, mais c'est vraiment ça. Je vais te casser, je vais te mettre à terre et ensuite on va te reconstruire. Quelle belle idée de génie, voyons donc. Donc, Paris Hilton qui a pris la parole, j'ai hâte de voir si ça va porter fruit. Il y a quand même quelques temps de ça, elle avait jasé notamment à Geneviève. Elle avait témoigné dans une audience du comité de l'État du Capitole de l'Utah. Bon, c'est une longue phrase, en fait, là, pour faire qu'un projet de loi soit accepté. Et suite à son témoignage, on avait justement accepté de réformer, d'ajouter quelques lois. Donc, tu sais, ça reste Paris Hilton. Ce qu'elle a dit par rapport à ce qui s'est passé à Provo Canyon School.
C'est très troublant. Vraiment,
c'est très troublant. Et là, c'est de voir aussi qu'elle est dans le... c'est bon à voir ça dans le documentaire. C'est qu'elle retourne voir des étudiantes qu'elle n'avait jamais, mais jamais revues depuis... cet établissement-là. Donc
c'est-tu des enfants de riches seulement qui vont là?
C'est pas seulement des enfants de riches. Non, non, non. Ben, il y en a quelques-uns. On a l'impression que, là, avec les noms en plus, c'est que je t'ai nommé, là, des Paris Jackson, Kat Von D. Souvent, ça va coûter très cher. Donc, oui, il y a des enfants de riches, mais ce n'est pas que des enfants de célébrités de ce monde. Et les filles, aller les voir parler ensemble. Il y en a une que c'est une rockeuse, ses petits cheveux blonds, tu sais, qui était la meilleure amie de Paris Hilton dans le temps. Puis justement, tu sais, dans le documentaire, elle dit à Paris, moi, ce que je vois de toi à la télévision présentement, c'est pas du tout la Paris que j'ai connue, là, tu sais, quand tu fais croire que tu sais pas du tout passer la vadrouille. Elle dit, moi, je me souviens avec toi d'avoir torché les toilettes pendant une semaine, là. Donc, tu sais, c'est pas vrai que t'es pas capable de passer la vadrouille. Donc, c'était beau de voir, mais ces filles-là, comment elles ont été traumatisées. Et il y en a qui, encore à ce jour, ont de la difficulté à s'ouvrir sur ce qu'elles ont vécu. Donc, de voir, tu sais, c'est cool, Paris Hilton, comme ça, qui prend la parole, puis qui défend, qui veut défendre, justement, les jeunes qui se retrouvent dans des établissements comme ça, puis qui peuvent
puis qui n'ont pas l'autorité, tu sais, ils ont des gens qui sont responsables d'eux, c'est-à-dire leurs parents, puis qui sont... C'est ça qu'il faut, à un moment donné, j'ai l'impression que pour venir à bout d'une certaine délinquance, c'est comme si l'enfant avait plus son mot à dire, là. On me dit qu'aux États-Unis, il y a des services qui existent pour kidnapper pendant la nuit des adolescents. Ce sont les parents, Anaïs, qui organisent tout ça.
Bang, c'est ça qui est arrivé à Paris.
Imagines-tu le traumatisme? Tu te fais kidnapper, en soi, c'est un traumatisme. Après ça, tu apprends que c'est tes parents qui ont organisé ce kidnapping-là pour te sauver.
On dit, fais attentif, fais confiance en la vie.
Ça marche pas bien. Ben, merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
Cube Radio.